Vous êtes branchés sur la fréquence 9¾.
Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9¾. Je suis Marina.
Et je suis Jérémy.
Après notre retour au dernier épisode, on ne perd pas de temps et on revient à la Coupe du Monde de Quidditch. D'ailleurs, c'est le titre même du chapitre parce que le fameux match va bientôt commencer.
Irlande contre Bulgarie, une belle affiche et un beau programme pour cet épisode qu'on est ravis de partager avec notre invitée du jour. C'est une sorcière podcasteuse comme nous qui, grâce à la magie, nous a rejoints depuis le Québec. On est ravis de recevoir Frédéric. Salut Frédéric, comment ça va?
Ça va super bien, merci de me recevoir à votre super podcast.
Bah, c'est un plaisir partagé parce qu'on est des auditeurs de ton podcast qui s'appelle En attendant ma lettre de Poudlard. Et justement, si tu devais résumer ton podcast, comment tu... Enfin, je dis podcast, mais on devrait dire balado. Si tu devais résumer ton balado, comment tu le
J'ai parti ça à l'automne dernier. Il y a déjà 17 épisodes. Puis En attendant ma lettre de Poudlard, c'est un balado, un podcast que je voulais offrir à la communauté de fans québécois d'Harry Potter. J'ai déjà une page Instagram. J'avais déjà une petite communauté de quelques milliers d'abonnés. Je voulais vraiment pouvoir offrir... j'avais l'impression que des fois, il y avait des discussions qui s'entamaient sur la page, mais j'avais pas l'espace puis le temps de les continuer. Donc, le balado, c'était l'option idéale pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment un balado où on couvre plusieurs sujets en rapport avec Harry Potter. Il y a des analyses des livres, évidemment, des comparaisons avec les films, surtout comme vous faites un peu. Par contre, moi, c'est pas chapitre par chapitre, c'est vraiment un tome par épisode, donc faut y aller quand même rapidement. Mais on fait aussi des épisodes sur la production des films, des discussions approfondies sur les personnages. On a des réponses aux questions des auditeurs aussi dans certains épisodes. Vraiment, c'est une bonne variété de plusieurs choses. Puis les gens aiment bien ça, donc je suis contente. Puis en ce moment, on est l'été, mais ça reprend dès l'automne. J'ai très, très hâte. Puis voilà.
Nous, on aime bien ça.
Et en fait, est-ce que tu es le premier podcast québécois sur le thème d'Harry Potter?
Absolument. Donc, pas que je sentais qu'il y avait un manque à ce niveau-là, mais vu que personne ne l'avait fait, je me suis dit pourquoi pas. Mon but, c'était pas non plus de me prononcer comme étant la grande experte du Québec d'Harry Potter, puis c'est moi qui fais le balado parce que c'est moi qui connais le plus ça. C'est vraiment pas ça, même que des fois, je reçois des invités qui m'éblouissent avec leurs connaissances puis qui m'apprennent des choses encore. C'est toujours ça, Harry Potter aussi, un peu. On en découvre toujours, puis nos réflexions nous amènent toujours, c'est ça, à mieux comprendre l'œuvre. Je suis très contente d'être représentante, disons, plus de cette communauté de fans au Québec, et puis de rencontrer des gens, des fans à travers tout ça. Là, c'est super. Comme probablement vous aussi, c'est votre cas d'ailleurs. Là, donc, vraiment, c'est le fun hein, d'avoir ce rôle-là un peu. Là, c'est super.
Et d'ailleurs, avant même ton podcast, tu représentais déjà sur les réseaux le fandom québécois parce que tu as une page Instagram qui est en fait préexistante à ton émission. Qui est oui. Ton compte Instagram, c'est Potter Québec, c'est ça. Donc cette page, tu l'avais ouverte bien avant de commencer ton balado, c'est ça?
Oui, j'ai ouvert ça pendant la pandémie, fin 2020, je crois bien. Ça c'est rapidement devenu quand même une solide communauté d'environ 5000 personnes. Donc je savais qu'en créant le balado, je venais quand même rejoindre déjà des gens impliqués dans ce projet-là, qui suivaient ce que je faisais. Donc, c'était facile pour moi de me garantir des auditeurs fidèles déjà là, quand j'allais lancer les premiers épisodes. Puis, depuis ce temps-là, ça continue de grossir, puis de rejoindre des auditeurs même en France. Donc, je suis contente de voir l'étendue qu'a mon balado podcast.
En tout cas, on va mettre les liens en description si ça vous intéresse. Si vous ne connaissez pas encore Frédéric et son podcast ou sa page Instagram, tu as aussi une boutique, je crois, qui s'appelle La Shop Interdite.
Oui, la shop interdite, c'est ça, c'est de la petite merch d'Harry Potter en français. Donc, Poudlard, qui est écrit sur certains chandails, Harry, Ron, Hermione, bon, ça c'est, je dis français, mais c'est aussi anglais dans un sens. Je vous laisse aller voir ça, là, la shopinterdite.ca, mais par contre, pour l'instant, je fais juste des livraisons au Canada.
Là, ça serait juste pour nos auditeurs en France, ça sera juste par curiosité, malheureusement.
Ouais, c'est pas possible en France.
Non.
Justement, ok.
Pour l'instant, ça serait possible peut-être si je vois qu'il y a une grande demande.
Allez, vite, on va constituer un groupe militant pour la livraison en France.
Bon, en tout cas, merci, merci Frédéric de nous rejoindre. J'espère que tu vas passer un bon moment dans notre podcast à nous. Oui, on est un peu des fous parce que nous, on fait ça chapitre par chapitre. On est un peu zinzin. Mais, et là,
on a signé pour très longtemps.
On en a signé pour très longtemps, ouais. Et à l'heure actuelle, on en est au chapitre 8 de la coupe de feu. Et donc, si on se souvient, au dernier chapitre, un gong avait retenti et des lanternes vertes et rouges étaient venues éclairer un chemin dans la forêt. Donc, si tout le monde est prêt, on peut emprunter ce chemin et se diriger vers le stade de Quidditch. On y va.
Harry Potter et la Coupe de Feu.
Chapitre 8. La Coupe du Monde de Quidditch. Sur le chemin du stade, l'ambiance était à son comble, pleine de rires et pour certains de chants de supporters. Après avoir traversé le chemin de la forêt, Harry et les Weasley découvrent un stade gigantesque pouvant au moins accueillir au moins 10 cathédrales, ce qui paraît énorme. Selon les informations de Monsieur Weasley, le stade a la capacité d'accueillir 100 000 spectateurs. Pas moins de 500 employés du ministère ont été dépêchés pour travailler sur ce projet sur une année entière. Alors, je ne sais pas s'ils ont saoulé les sorciers autant qu'ils ont saoulé les Français pour les JO 2024 Paris, pour la préparation de ce stade.
Ouais, c'est, pour t'expliquer, Frédéric, c'est vrai que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en l'année prochaine et tous les jours, on en parle, quoi, alors que c'est dans un an.
Et même, ça fait très longtemps, on en parle depuis très longtemps et aujourd'hui, il y a des émissions quotidiennes sur les JO 2024, etc. Enfin bref, on est noyés sous les JO.
Après, dans le monde de la magie, quand il réfléchit, le Quidditch, c'est un peu leur seul sport. Donc, c'est la finale à pas manquer. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a réuni autant de sorciers, en fait.
Vraiment. Puis moi, ce qui me surprend aussi, là, c'est le 100 000 spectateurs.
Ouais, ça fait beaucoup.
Que le stade peut accueillir. Puis j'avais déjà soulevé le questionnement dans mon balado, comme combien il y a de sorciers dans le monde, puis combien il y en a juste, par exemple, en Angleterre. Tu sais, c'est quoi la population de sorciers, puis 100 000 sorciers, ça c'est juste déjà là 100 000 personnes qui avaient vraiment envie de se déplacer pour voir la Coupe du Monde, donc ça veut dire qu'il y a, si je peux me permettre, des millions de sorciers dans le monde. Bref, ça m'a comme fait réfléchir à ça quand j'ai lu ça.
Bah ouais, surtout qu'on sait que c'était difficile d'avoir des tickets, le stade est plein, tout le monde n'a pas pu venir, donc Là, c'est un stade de 100 000 spectateurs qui est vite rempli, en fait. Enfin, il n'y a pas de problème pour remplir un stade de 100 000 spectateurs. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours se demander les statistiques, combien il y a de sorciers, même le nombre d'élèves à Poudlard. C'est très flou, tout ça. Même à Poudlard même, on ne sait pas.
Le stade est tellement immense que je n'arrive pas à le visualiser dans ma tête.
Après, je pense que ça existe, des stades.
10 cathédrales.
Dans 100 000 spectateurs, ça doit exister, même dans...
Non, mais en fait, c'est pas la capacité qui est impressionnante, mais c'est plutôt la grandeur du stade.
Ah ouais.
C'est 10 cathédrales, parce que, en fait, ouais, il doit être grand, parce qu'il vole sur des balais, donc ça doit couvrir quand même une longueur de stade assez conséquente et une hauteur aussi.
Dans le film, pour le coup, c'est plutôt bien réussi, ça. On voit bien un peu que le stade est gigantesque, quoi. C'est plutôt bien réussi.
C'est ce que j'allais dire. En effet, tu le vois qu'il y a environ 100 000 personnes dans le film. C'est un énorme stade, des stades comme on ne voit pas dans le vrai monde.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Et donc, du coup, on peut se poser la question de comment ils arrivent à cacher ce stade au regard des moldus. Et en fait, chaque centimètre carré du stade a été soumis au sortilège du repousse moldu. En fait, à chaque fois qu'un moldu arrive, il se rappelle soudainement d'un rendez-vous urgent à l'approche du terrain.
C'est un peu comme Poudlard, je crois. Poudlard, on voit une vieille ruine.
Oui, c'est ça.
Enfin, si on est un moldu, parce que moi, je suis un sorcier, donc ça ne m'arrive pas. Mais si on...
Bien sûr.
Ils ont un peu utilisé le même type de protection.
Les sièges d'Harry et des Weasley se trouvent dans la tribune officielle située au plus haut du stade. La vue est incroyable et elle permet aux sorciers d'avoir une vue d'ensemble sur le stade, de voir des milliers de sorciers et de sorcières s'installer et d'être en face d'un tableau publicitaire. Même dans le monde des sorciers, on n'échappe pas à la publicité. Et là, en fait, on se dit, mais là, on vient de parler de la taille du stade. Et du coup, ils sont au plus haut. Mais il leur dit de grimper des escaliers, mais il y a combien de marches en tout? Parce que si ça fait la hauteur d'une cathédrale, c'est énorme.
Ouais, avec la magie, il n'y a pas d'ascenseur magique, c'est ça que tu veux dire?
Bah oui, c'est ça. Ouais. Il ne peut pas y avoir des escaliers tout
en
long.
En vrai, est-ce qu'ils n'ont pas mis une heure? Bah après, dans un vrai stade, c'est pareil. Hein, tu es obligé de... Je ne sais pas trop comment c'est fait, mais il n'y a pas... Mais on a, c'est un truc qu'on a... C'est un
mais
débat qu'on a...
Mais dans un stade, t'as des paliers.
Ouais, t'as des paliers, ouais. Ouais, mais... Ouais. Bah, dans le film, on voit un peu, c'est comme des espèces de gradins. Moi, j'y vais... En fait, je trouve que le stade, en tout cas, à ma lecture, je le visualise un peu comme il est dans les films. Mais oui, je pense que la tribune officielle est tout en haut, donc ils doivent mettre un paquet de temps à y aller quand même. Ça ne doit pas être de tout repos.
Alors que dans le film, elle est plus centrée, cette tribune officielle-là, oui. Dans laquelle ils ne sont même pas. Dans le film, ils sont à la dernière rangée en haut. S'il pleut, ils vont être les premiers à le savoir. C'est ça qu'ils se font dire en plus. Je sais pas. Est-ce que je peux quand même adresser les différences entre le film et le livre?
Ouais, bien sûr. Vas-y.
Ben écoute,
fais-toi plaisir.
Je comprends pas tout à fait la décision de justement les mettre tout en haut dans le film, alors que justement ça fait paraître comme si Drago et son père, eux, ont le privilège énorme d'être dans la tribune officielle sous invitation de Cornelius Fudge, ce qui est aussi le cas dans le livre, mais dans le film, c'est comme si les Weasley ils ont eu les moins bons billets parce qu'ils sont pauvres, puis c'est triste, puis ils sont en haut. Mais dans le livre, ils sont là, avec eux. J'aurais aimé ça que ce soit ainsi dans le film.
Ouais,
ça aurait été bien.
Alors, si on commence sur le sujet de tout ce qu'ils n'ont pas mis dans le film concernant la coupe de feu, on n'en a pas fini, mais oui, effectivement...
Là, pour le coup, oui, c'est un détail de
c'est
taille.
C'est un petit détail. Fait, c'est vrai qu'ils sont isolés dans le film, alors que dans le livre, ils sont effectivement avec les ministres. Enfin,
avec
ils
les
ont
personnes d'influence.
Ils ont des meilleures places que les Malfeuilles, en fait. Ouais, quasiment.
Oui, puis ils sont quand même... Mais en même temps, ça fait plus ou moins du sens parce qu'ils ont eu les billets dans la tribune officielle grâce à Ludo Verpé, je pense, qui les a invités. Mais c'est son 10. C'est Arthur, c'est tous ses enfants, plus Harry, plus Hermione, son 10.
Ouais.
10 sièges réservés pour eux dans la
tribune.
C'est
vrai que ça fait beaucoup, ça.
ça fait pas de sens.
Ouais. Après, tu as cité Ludo Verpé. Ludo Verpé n'existe pas dans le film, il y a un personnage que je crois Marina va introduire juste après, qui n'est pas dans le film, et qui est tellement central dans le livre pourtant. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et puis surtout, il n'y a pas le match. On attend toujours le match. Que le match commence, jamais, vous ne le verrez pas. Ça coûtait trop cher.
Alors, Harry, il est dans la loge ministérielle, du coup, dans le livre, et il est curieux de savoir avec qui il va partager cet espace. Pour le moment, seul un siège est occupé par une créature vêtue d'un torchon à vaisselle. C'est Dobby. Harry appelle Dobby, mais la créature qui se retourne est certes un elfe de maison, mais ce n'est pas Dobby. Sa voix est beaucoup plus aiguë, ce qui laisse supposer à Harry qu'il s'agit d'une femelle. Ron et Hermione et même Monsieur Weasley jettent un coup d'œil curieux à l'elfe. Harry a souvent parlé à ses amis de Dobby, mais ces derniers ne les avaient jamais vus. Et ce qui me pose question dans ce paragraphe, c'est que Ron, il est intéressé, enfin il est curieux par rapport à l'elfe de maison. Et je me dis, mais Ron n'a jamais vu d'elfe de maison dans toute sa vie de sorcier.
J'ai pensé la même chose. J'ai juste noté vraiment Ron, c'est la première fois qu'il voit un elfe, je comprends pas. En même temps, on le sait que les Weasley n'ont pas eu d'elfe de maison. Est-ce que Ron a été tant que ça dans d'autres demeures de sorciers? On ne le sait pas. J'ose imaginer que les amis de la famille, c'est pas le genre de gens justement qui vont avoir des elfes de maison. C'est peut-être plus une vieille mentalité de gens justement très sans pur qui vont jusqu'à abuser ces pauvres créatures-là. Donc, je me dis qu'en effet, ça peut faire un peu de sens maintenant que j'y pense, que il n'y en avait jamais vu un.
Après, je me dis, est-ce que les elfes de maison sortent pour faire des courses pour leurs sorciers, par exemple sur le chemin de traverse? Donc, est-ce que t'es pas
amené? Je viens d'avoir une image dans la tête.
À voir un elfe de maison à Carrefour ou...
T'as un elfe de maison qui prend les petits caddies pour les enfants et qui te demande, tu veux, je peux avoir ça, c'est trop haut, s'il te plaît.
Parce qu'ils sont pas tout le temps dans la demeure de leurs sorciers. Ils sortent pour faire des tâches pour eux, non ?
Ils m'ont l'air assez discrets. Absolument. Parce qu'il est dit à Poudlard, par exemple, qu'on ne les voit pas nettoyer, ils font ça de nuit. Les cuisines, ça se trouve... personne ne voit les cuisines de Poudlard, c'est en dessous du plancher. Je crois que les elfes, quand même, sont un peu... se font le plus discret possible, donc je ne les vois pas forcément se balader en plein jour dans les rues, enfin, après Olar, par exemple, ou sur le chemin de traverse, mais... En tout cas, je crois pas qu'on mentionne ça. C'est un peu des esclaves cachés, quoi, malheureusement.
Après, oui, peut-être que c'est très rare à voir parce que si tu n'en as pas, parce que même Monsieur Weasley jette un coup d'œil intéressé. Donc,
Ouais, les Weasley, ils ont une goule. Ils ont la goule de famille. Peut-être qu'effectivement, ils fréquentent pas des familles qui vont avoir des elfes. C'est possible que ce soit la première fois, oui, que Ron voit un elfe. Ouais.
C'était sûrement plus commun avant. Dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, puis c'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps, donc c'est en effet curieux d'en voir un pour la majorité des sorciers. Puis pour juste ramener ce que tu as dit par rapport à Poudlard, c'est vrai, à Poudlard, ils se font super discrets, faut que personne sache qu'ils sont là. Harry a aucune idée qu'il fait son lit le matin, il se pose jamais la question, il doit se dire que c'est par magie, mais finalement, bon, ça va être plus tard dans le livre qu'il va apprendre que ce n'est pas le cas, il y a des petits elfes.
C'est fou ça quand même.
Mais bon, après... même nous, en fait, on suppose que c'est tout simplement par magie que la nourriture arrive sur les grosses tablées de la grande salle. Et ouais, on apprend comme eux que bah, dans le tome 4, du coup, que c'est des petits elfes de maison qui sont dans les cuisines pour leur apporter des repas chaque jour.
Ça, hyper fastueux. Les sorciers peuvent avoir la même excuse que nous, c'est-à-dire de penser que c'est la magie qui fait tout ça, alors que non, en fait, ce sont des elfes de maison, ce sont des petits esclaves. Mais oui, je pense qu'il y a des élèves qui font toute leur scolarité à Poudlard et qui ne savent jamais qu'il y a des elfes qui se sont occupés d'eux pendant toute leur scolarité. C'est possible. Pauvre petite créature.
Ouais, le plus gros plot twist de la série. Apprendre que c'est des elfes qui travaillent à Poudlard. Puis je me demande, juste pour peut-être conclure là-dessus, je me demande en fait si l'information est dans le fameux livre « L'histoire de Poudlard » que c'est juste Hermione qui a lu, ou peut-être que c'est même pas dans ce livre-là. Je ne me rappelle plus comment Hermione le sait. C'est des elfes, je pense que ça va être dit plus tard.
Elle le sait pas.
En fait,
On lui apprend.
En fait, je crois qu'elle l'apprend quand Dobby annonce qu'il travaille désormais dans les cuisines de Poudlard.
Oui, je crois qu'elle dit quelque chose, mais il y a des elfes de maison à Poudlard. Je crois qu'elle n'était pas au courant.
Et c'est à partir de ce moment-là où elle est là. Oh my god! Et qu'elle monte la salle et tout pour les libérer.
Puis je vois mal l'histoire de Poudlard, que le livre vante un peu, qu'il y a des elfes, je sais pas si c'est mentionné.
Je pense pas qu'il soit maltraité à Poudlard, mais je pense que ça ne s'étale pas partout qu'on a des elfes de maison, peut-être.
Et puis on sait qu'il n'y a pas tout dans l'histoire de Poudlard, parce que par exemple, Hermione a lu l'histoire de Poudlard, connaît par cœur, mais elle ne sait pas que c'est le choix-peau magique qui fait la répartition, donc. Tout n'est pas dit dans l'histoire de Poudlard.
Après, Poudlard, est-ce que c'est pas le meilleur endroit pour un elfe de maison qui souhaite travailler? Est-ce que c'est pas le meilleur endroit pour eux d'y être
maltraité? Surtout pour Dobby, il gagne un galion par jour après. Ou par semaine, je sais plus.
Par contre, Dumbledore, il a abusé. Il lui a dû proposer un jour de congé.
Ouais, ça c'est grave. Quand
même. L'elfe répond qu'elle aussi connaît Dobby. Elle se présente sous le nom de Winky. Et voilà, nouveau personnage pour ceux qui n'ont jamais lu les livres. Winky, l'elfe de maison, existe. Et en un coup d'œil sur la cicatrice, elle devine l'identité d'Harry. Et Dobby n'arrête pas de parler de lui. Et d'ailleurs, elle n'est pas sûre que l'idée d'Harry de donner la liberté à Dobby ait été une super idée. Selon elle, Dobby ne se croit plus haut qu'il ne l'est. Et là, doucement, elle explique à Harry que Dobby demande à être payé pour son travail. C'est ce qui arrive quand on dit à la RH, quand on demande un salaire à la RH lors d'un entretien d'embauche. On veut être payé par long salaire.
Là, je me suis dit quand même, Dobby, c'est un peu le goat des elfes de maison, parce que même Winky, un elfe comme ça, random, elle connaît Dobby. En fait, Dobby, c'est un peu le Harry Potter des elfes de maison, quoi. C'est une star.
Quand il a été libéré, ouais, ça a fait.
C'est Dobby Potter.
Ça a fait une vague dans le monde des elfes de maison.
Ouais, c'est tellement dommage d'avoir supprimé Winky. Mais c'est pas étonnant parce qu'ils ont même supprimé Dobby, en fait. C'est-à-dire que je pense que mettre l'elfe de maison, des elfes de maison dans les films, c'est un peu compliqué. Donc, supprimer Dobby, c'était pas pour rajouter un personnage d'elfe de maison en plus. Enfin, ils ont trouvé un moyen dans l'histoire pour pas que Winky ait d'importance. Mais elle a de l'importance dans le livre et on en reparlera à la fréquence, évidemment. Elle est pas là par hasard.
Pour reprendre, Harry ne voit pas en quoi cela pose un problème d'être payé pour un travail effectué. Winky lui explique que les elfes de maison ne se font jamais rémunérer. Dobby devrait vraiment trouver une bonne petite famille pour se poser, sinon une intervention du département du contrôle et de la régulation lui pend au nez. Harry reste persuadé que Dobby doit s'amuser, mais encore une fois, Winky lui dit que les elfes n'ont pas à s'amuser. Depuis le début de leur conversation, Winky n'arrête pas de se cacher les yeux. Elle explique à Harry qu'elle déteste l'altitude, mais que son maître lui a ordonné de garder son siège. Donc, comme elle est une bonne petite elfe de maison, elle s'exécute. La pauvre.
Ouais, c'est un peu ça le quotidien des elfes de maison, quoi.
Harry rejoint ses amis après la discussion avec Winky. Ron trouve que les elfes de maison sont des créatures bizarres. Mais sans hésitation, Dobby était définitivement plus bizarre encore. Petit à petit, la loge se remplit. Monsieur Weasley est passé maître dans l'art de serrer les mains de personnes les plus influentes, pendant que Percy, lui, semblait électrocuté à chaque passage de ces fameuses personnes. Le summum, c'est lorsque le Premier ministre entre dans la loge. Percy s'est incliné si bas que ses lunettes sont tombées et se sont cassées. Et en plus de la gêne, la jalousie s'est incrustée lorsque Percy voit Fudge saluer Harry d'un salut paternel. Fudge présente avec grand mal son confrère bulgare. La communication semble très compliquée entre les deux ministres. Obslang. Oui, je me suis dit que j'allais présenter le nom du Premier ministre bulgare.
J'arrive mais pas à le prononcer.
Obslang, qui ne parle pas anglais, comprend l'identité d'Harry uniquement lorsqu'il voit sa cicatrice si célèbre. Dans le wiki Harry Potter, il est dit que le Premier ministre bulgare comprend parfaitement l'anglais, mais qu'il se joue de Fudge. Mais j'ai pas trouvé la source. C'est dans,
dans le livre.
Ah, dans les.
Tu te souviens pas?
Non.
Bah,
c'est à la fin du chapitre.
Tu attendras ma partie pour.
Bah oui, j'ai pas lu ta partie. J'avoue, j'étais dans le rush pour préparer comme d'hab et j'ai pas lu ta partie.
La source, le livre.
Ok, la source, le livre. Bah, du coup, c'est pas une fake news, c'est bon. Bah, c'est bizarre pourquoi ils ont pas sourcé le livre. Enfin, bref. Fudge explique à Harry qu'il n'est pas doué pour les langues étrangères. Dans ces cas-là, Barty Crouppton lui est toujours très utile. Pendant qu'il est en train de râler contre les Bulgares qui ont essayé de prendre toutes les bonnes places, le ministre s'exclame lorsqu'il voit Lucius Malfoy. Lucius est accompagné de sa joyeuse petite famille, son fils Drago et sa femme, blonde elle aussi, portant un air qui lui donne, je cite, l'air d'être sans cesse incommodé par une odeur pestilentielle. Et je trouve que c'est très imagé parce qu'on imagine très bien l'air qu'elle peut avoir.
Oui, oui, oui. Une femme belle, mais.
Pincée.
Ouais,
l'air
pincée.
Très
ouais.
Pincée.
Mais elle est forte. J.K. Rowling est forte pour les descriptions, pour caractériser un personnage. On a tout de suite une couleur qui vient et. Ouais. Elle a toujours été très douée pour ça.
Et évidemment, les places des Malfoy se situent juste derrière celles de Monsieur Weasley. Harry, qui écoute Fudge discuter avec Lucius, apprend que sa femme s'appelle Narcissa. Le Premier ministre lui présente également le Premier ministre bulgare et il lui demande si Lucius connaît Monsieur Weasley. Alors, flashback, est-ce que les deux se connaissent? On va faire un flashback. Librairie Fleury et Bottes, 2 ans plus tôt. Alors que Harry et les Weasley sont à la librairie pour acheter les fournitures scolaires et assister à la dédicace de Gilderoy Lockhart, Drago Malfoy interpelle Harry et Ginny Weasley pour les provoquer. Et de fil en aiguille, Arthur Weasley commence lui aussi à se battre avec Lucius Malfoy pour le plus grand bonheur du photographe de la Gazette qui se trouvait là. La bagarre prend fin grâce à l'intervention d'Hagrid. Et pendant ce temps, Lucius profite de ce moment pour glisser discrètement le journal intime de Tom Jedusor avec le manuel de métamorphose à l'usage des débutants de Ginny. Et nous connaissons tous les conséquences de ce journal en possession de Ginny. Donc oui, Arthur Weasley connaît bien Lucius Malfoy et c'est très très gênant.
Ouais, surtout que c'est encore plus grave, entre guillemets, que dans le film, parce que dans le livre, ouais, ils se battent, quoi, vraiment, dans la chambre des secrets. Ils en sont venus aux mains. Et je trouve ça un peu bizarre. Enfin, je sais pas, il est peut-être Premier ministre, il a peut-être d'autres choses à penser, mais c'est quand même... Lucius Malfoy a l'air d'être quelqu'un d'important. Arthur est un employé du ministère qui a l'air quand même assez important. Et c'est bizarre qu'ils sachent pas que les deux se connaissent, en fait. Surtout qu'on a l'impression que tous les sorciers... se côtoient, se parlent. Donc,
ouais, mais c'est le Premier ministre et j'ai l'impression qu'il y a 10 000 personnes qui travaillent au ministère. Ils sont vraiment très nombreux.
Je trouve ça bizarre qu'ils ne sachent pas que les Weasley et les Malfoy sont un peu des familles ennemies, en fait.
Alors, est-ce qu'il le sait, mais au fond, il s'en fout ou c'est Fudge. Hein.
Ouais.
Il est toujours un peu en dehors des réalités aussi, j'ai l'impression. Fidèle à lui-même, Lucius demande à Arthur comment est-ce qu'il a fait pour obtenir les billets, parce que même la vente de sa maison n'aurait pas suffi à les payer. Bien que Malfoy ne se soit pas caché en le disant devant Fudge, Fudge prend la parole sans avoir entendu, ou encore une fois, a fait mine de pas entendre. Il reprend la parole pour annoncer que Lucius est un invité de sa part suite à sa très généreuse donation à l'hôpital Sainte-Mangouste.
Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis demandé est-ce que Fudge y fait semblant de pas entendre lorsque Malfoy il insulte Arthur,
ou mais c'est sûr que oui.
Ou est-ce que, enfin,
il a toujours... forcément entendu.
Mais c'est incroyable.
C'est Fudge. C'est Fudge. Il est comme ça, on l'aime pas.
Ouais. Et c'est incroyable. Puis Lucius, quoi, c'est incroyable d'insulter Arthur Weasley devant le Premier ministre au calme comme ça.
Et c'est incroyable. Alors toutes les insultes sont bannies, bien entendu. Mais à chaque fois, Lucius attaque sur la pauvreté des Weasley. Il est obnubilé par la situation sociale des Weasley. Il a que ça à la bouche, même par rapport aux enfants.
Les sortes de bourbes aussi. Enfin, c'est...
En gros, il les pointe du doigt en disant « Vous êtes pauvres, vous êtes pauvres, vous êtes pauvres !»
Oui.
C'est incroyable.
Bah, c'est pour ça qu'après, Drago, il répète le schéma paternel. Quoi. C'est un peu le même type d'insulte qu'il répète. Tel père, tel fils, comme on dit.
Avec cette mention de cette donation, je me suis demandé d'où pouvait bien venir la fortune des Malfoy. Est-ce que vous le savez?
Non, mais tu vas nous le dire.
Fortune familiale, j'ai l'impression.
Et comment ils se sont constitués, cette fortune familiale? C'est assez étonnant. J'ai trouvé l'information sur Feu Pottermore, où il est fait mention d'une très ancienne rumeur, non prouvée à ce jour, selon laquelle les Malfoy se seraient intéressés pendant plusieurs siècles à l'achat et à la vente de monnaie et de biens moldus.
Ah bon ?
Ouais.
Moldus ?
En fait, ils ont fait leur fortune grâce aux biens moldus. Au cours des siècles, ils sont parvenus à élargir leurs terres dans le Wiltshire, en acquérant peu à peu celles de leurs voisins moldus et ont accumulé une multitude de fabuleux trésors et de tableaux de maîtres moldus en usant de leur influence sur la famille royale. J'ai même trouvé qu'il est pareil que même encore, ils s'incrustaient dans la finance moldue. Jusqu'à la signature du Code international du secret magique en 1689, la famille Malfoy fréquentait assidûment les cercles mondains des moldus bien-nés. On dit d'ailleurs que leur farouche opposition à l'instauration de ce code serait en partie due au fait que ces derniers les obligeaient à renoncer à ces sphères sociales qu'ils appréciaient tant. Mais, dès l'adoption du Code international, la famille Malfoy, comme on les connaît bien, ont retourné leur veste pour devenir des grands partisans du code qui défendait la cause du ministère depuis la première heure. Et à partir de ce moment-là, à partir de la signature du code, ils s'empressent de nier qu'il leur était arrivé de fréquenter et même d'épouser des moldus. Et donc, au cours de ces siècles, ils ont une fortune considérable et c'est ce qui leur a assuré une forte influence au sein du ministère de la magie pour les générations à venir.
Est-ce que c'est un écrit de J.K. Rowling,
ouais.
tu sais Ah ouais, je suis passé complètement à côté de celui-là. C'est intéressant, en fait, hein, c'est de voir...
C'est ça.
C'est, ils avaient un lien avec les Moldus, qui était un lien intéressé, quoi.
Intéressé, même très proche de la famille royale, parce que même dans l'écrit de J.K. Rowling, elle vient même à inventer une relation au premier Lucius Malfoy avec la reine Elisabeth Ier. Mmh. Et qu'il l'aurait conduit, etc. Mais oui, c'était très proche de la famille royale, des cercles mondains. Et en fait, c'est en usant de la magie contre ces Moldus, malgré tout, qu'ils ont acquis beaucoup, beaucoup de biens, en fait.
Intéressant. Je ne savais pas. J'étais passé à côté
très
de ce texte.
Et ce qu'ils aimaient, en fait, c'était aussi, ils aimaient malgré tout les Moldus, mais seulement bien nés, pour un peu show-off dans les cercles mondains à l'époque.
Et suite au code du secret magique, ils ont entre guillemets un peu retourné leur veste et petit à petit, en fait, ils se sont mis à avoir de la haine
totalement
contre les Moldus, mais c'est pas quelque chose d'ancestral, quoi.
Non. Ouais. Non, parce que s'ils ont une famille familiale, c'est grâce aux Moldus.
Mmh. Ah, merci pour ce petit point encyclopédique.
Ça se demandait, ouais, on s'est toujours demandé pourquoi les Malfoy étaient aussi riches, quoi.
Ouais.
Quand on repense au flashback dont j'ai parlé tout à l'heure, on imagine bien la situation gênante pour Arthur Weasley et même pour Hermione qui doit soutenir le regard de Lucius. Et on sait tous ce que Lucius pense d'Hermione en ce moment même. Mais Malfoy se retient de tout commentaire devant Fudge et se dirige vers ses places. C'est au tour de Ludo Verpet de faire son apparition dans la loge. Après l'accord de Fudge pour lancer les festivités, Ludo Verpet lança un sonorus sur sa gorge. C'est alors que sa voix résonne dans tous les gradins. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à cette finale de la 402e Coupe du Monde de Quidditch. » Et suite à cette annonce, une marée de drapeaux s'agite et les hymnes se font entendre. Ludo Verpet annonce la venue des mascottes de l'équipe bulgare, les Vélans. Les Vélans ensorcellent tout de suite le stade lorsqu'elles commencent à danser. La tête d'Harry se vide instantanément. Ces magnifiques femmes ne peuvent pas être humaines, avec leur peau qui scintille et leurs cheveux d'or blanc qui semblent voler. Harry a l'envie irrésistible de faire un truc fou pour attirer leur attention. Mais c'est alors que la voix lointaine d'Hermione le tire de ses pensées. Alors qu'il n'y a plus de musique, Harry se rend compte qu'il a commencé à enjamber la balustrade de sa loge. Et lui, Ron, a l'air de quelqu'un qui va sauter d'un plongeoir.
C'est un peu ridicule tout ça quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me met un petit peu mal à l'aise à la
lecture. Est-ce que vous pensez... Est-ce que, parce que là, on le sait, les Vélans ont un effet sur les hommes, notamment. Un effet, c'est ça, comme ça. Là, c'est... Mais est-ce que vous pensez que l'effet est plus intense sur Harry Perron parce qu'ils sont plus jeunes, peut-être? Je ne sais pas.
C'est ce que je me suis demandé. Les hormones de l'adolescence.
Ah. Oui. Des premières émotions qu'ils n'ont pas souvent ressenties, là, qui peut les faire agir encore plus intensément que les autres hommes matures, peut-être, autour d'eux. Là. Comme Arthur, peut-être que ça n'a pas eu vraiment le même effet sur lui. Là.
Et je me suis posé la question aussi, parce que les Vélans attirent les hommes. Est-ce que, du coup, elles peuvent attirer les femmes qui sont attirées envers les femmes?
C'est une bonne question, parce que je pense que dans les années 90...
On ne se posait pas cette question.
On se posait un peu moins la question, mais on ne sait pas. J'ai regardé, est-ce que je me suis posé la même question, mais il n'y a pas de source.
Moi, je pense que oui, si on est attiré par une femme, en étant une femme, théorie, on peut être attiré par les Vélans.
Bah, en fait, comme c'est une...
Ou est-ce que c'est un charme? C'est purement un charme... Un charme qui, peu importe l'apparence ou le genre des Vélans, elles attirent que les hommes.
Je pense surtout que J.K. Rowling, encore une fois, elle s'est inspirée du folklore. Ici, c'est le folklore bulgare ou serbe. Et je pense qu'elle s'est contentée de reprendre un mythe folklorique.
Est-ce que tu sais d'où viennent les Vélans?
Ouais, j'ai regardé un petit peu et... Alors, Vélan, c'est villa en anglais, et c'est un anglicisme, en fait, du mot slave, villa. Et villa, ça veut dire nymphe, en fait. Donc, en gros, on aurait pu mettre dans le texte français des nymphes. Et à la base, en fait, dans le folklore bulgare et serbe, ce sont des fantômes de femmes qui se sont noyées. et qui ont souvent été trahis par leur amant et qui ont un pouvoir hypnotisant sur les hommes. Donc, dans la mythologie grecque, ça se rapproche des sirènes, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, même, le genre des sirènes.
Même si dans Harry Potter, les sirènes et les vélanes, pour le coup, ce sont deux créatures distinctes et qui n'ont pas l'air d'avoir de lien, mais en gros, les vélanes, ça se rapproche plus de ce que, dans la mythologie grecque, on connaît des sirènes. Mais oui, dans le folklore et dans la mythologie, ça n'a effet que sur les hommes. Aujourd'hui, dans le monde d'Harry Potter, elle n'a pas trop modernisé ça. En tout cas, elle n'en parle pas, mais on peut se poser la question. Oui, peut-être que des femmes peuvent être attirées par des vélanes. Je ne sais pas.
Après, si c'est purement magique,
mais d'ailleurs, j'ai
des créatures, je ne sais pas.
J'ai un peu regardé, il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'on ne sait pas aussi non plus, mais bon, on peut deviner. On ne sait pas si une vilaine peut être masculin. Moi, je pense pas. Je pense que ce sont des créatures féminines. Par contre, on peut se demander du coup comment elles se reproduisent. Ça, c'est une autre question. Par contre, il y a un personnage qui est intéressant. C'est Louis, le fils de Bill et Fleur. Parce que c'est le seul personnage masculin connu à avoir du sang de vélane par son arrière-grand-mère. Et donc, on peut se demander, mais du coup, Louis, c'est quoi son... Enfin, est-ce qu'il a un effet de Vélan, et si oui, c'est quoi? Parce que c'est un homme, et du coup, voilà.
Du coup, peut-être peu importe le genre, il attire du coup les hommes, lui, malgré tout.
Bah non, on sait pas. Si
c'est un sortilège purement magique,
ah oui,
vois,
ah,
c'est
oui.
Pas par rapport au genre de la créature.
Oui, c'est pas forcément. Ouais, ça peut être ça.
Bah ouais. Peut-être qu'on aura la réponse dans la nouvelle série Harry Potter.
Non.
Bah, on peut faire une suggestion au studio Warner Bros. Les Vélanes, en tout cas, elles ont un tel pouvoir de séduction qu'Harry se demande bien pourquoi il a un trèfle sur la poitrine, et Ron lui déchire carrément le trèfle qu'il a sur son chapeau. Alors, il y en a certains qui sifflent un peu dans les gradins parce que c'est pas très fair-play comme mascotte quand même, parce que maintenant il y a une partie des spectateurs qui vont vouloir soutenir la Bulgarie à cause des Vélanes. Et c'est au tour des mascottes de l'Irlande de venir sur le terrain. Une grande comète verte et or arrive sur le terrain qui se sépare en deux et qui se précipite sur les buts. Puis un arc-en-ciel se déploie d'un bout à l'autre du stade. La foule semble conquise. L'arc-en-ciel disparaît, puis les deux comètes n'en font plus qu'une et forment désormais un trèfle géant qui s'élève dans les airs et vole au-dessus des tribunes sous une pluie de pièces d'or. Harry s'aperçoit que le trèfle est en fait composé de milliers de tout petits bonhommes barbus habillés de gilets rouges et qui portent des lanternes vertes ou dorées. Arthur Weasley lui apprend que ce sont des farfadets.
Vous savez pourquoi il y a un arc-en-ciel ? Il est fait mention d'un arc-en-ciel ?
Parce qu'une légende avec les farfadets, comme quoi il y a un chaudron de pièces d'or au bout de chaque arc-en-ciel.
Ouais, c'est ça.
De l'or de farfadets.
C'est ça, parce qu'encore une fois, elle a repris... une créature folklorique, donc cette fois-ci en Irlande, évidemment, c'est les fameux leprechauns. Et en fait, les leprechauns, ils sont souvent représentés comme des petits hommes habillés en vert, avec une barbe et des cheveux roux, et ils conservent leurs pièces d'or dans des chaudrons cachés au pied des arcs-en-ciel. D'où l'arc-en-ciel là, et puis aussi l'or de Farfadet que J.K. Rowling elle a créé pour Harry Potter. Donc c'est marrant de voir comment elle reprend en fait des créatures folkloriques pour les mettre un peu à la sauce sorcière. C'est toujours passionnant de voir ça.
Pendant qu'Harry est en train d'admirer ces petites créatures, Ron s'est précipité pour ramasser les pièces d'or. Il s'empresse de rembourser les multiplettes payées par Harry. Comme ça, il ne perd pas le nord, Harry pourra lui acheter un cadeau de Noël. Une fois que le trèfle a disparu, les farfadets rejoignent le stade de l'autre côté des Vélanes, qui se sont installés pour assister au match.
Juste, on dit multiplettes ou multipliettes ?
Multiplette, je pense bien. Je ne sais pas si vous l'avez dit dans votre analyse votre discussion sur le dernier chapitre, mais les multiplettes, dans le fond, c'est vraiment juste l'équivalent d'avoir un cellulaire avec une caméra qui peut filmer. Puis
oui, c'est
juste, c'est sûr, les multiplettes donnent la petite information additionnelle. Là, on va le voir pendant le match, là, qui vient donner une petite description, mais.
C'est presque une intelligence artificielle.
C'est des multiplettes.
Ouais.
Ouais, c'est bien des multiplettes, ouais.
Multiplettes, ouais.
Ouais, t'as écrit multipliettes.
Ouais, bah je vais essayer de dire multiplettes. Pour moi, c'était des multipliettes, je sais pas pourquoi. N'importe quoi.
Ce serait bien aussi.
C'est ouais, bien, c'est ouais, je sais
ça, ça marche.
Alors, Ludo Verpé annonce ensuite les joueurs de l'équipe bulgare qui font leur entrée un à un, en terminant bien sûr par la méga star Viktor Krum. Ce qui met Ron dans tous ses états. Krum est décrit avec un grand nez arrondi et d'épais sourcils noirs, et il ressemble à un grand oiseau de proie. On l'a dit tout à l'heure, J.K. Rowling, elle est assez forte pour caractériser les personnages, et souvent elle les assimile à des animaux. Et ça m'a fait penser par exemple à Ombrage, qui est un crapaud, Scrimgeour, c'est un lion. Là, j'avais un peu oublié que Krum, c'était un grand oiseau de proie. Mais on voit un petit peu, on voit bien l'image, je trouve.
Ben absolument. Puis juste pour une petite parenthèse, instantanément, quand j'ai lu cette description, on dirait que, là, vous dites Krum, mais nous, c'est Krum qu'on dit. On dit ouais. Viktor Krum, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, instantanément, l'image que j'avais de Viktor Krum des films, c'est comme effacé, puis j'ai vu complètement une autre personne juste avec cette petite description-là. Oiseau de proie, grand, je voyais un autre homme totalement. Donc, c'est vraiment sa force, en effet, comme tu dis à J.K., de pouvoir, là, en quelques mots, nous donner cette image-là précise dans notre tête de quoi a l'air le personnage.
Mais limite, l'acteur est un peu trop lisse, entre guillemets, dans les films. Il aurait pu être encore un poil plus ténébreux et plus féroce dans son expression.
Bah, c'est vrai que ça fait partie des personnages que je visualise complètement autrement dans mes lectures. Physiquement, l'acteur ne correspond pas à l'image mentale que je m'en fais. Mais c'est loin d'être le seul. Mais c'est vrai que... Ouais, l'acteur. Et aujourd'hui, parce que je l'ai vu quelques fois, parce qu'il fait souvent beaucoup de salons. C'est un acteur qui s'appelle Stanislav Janowski. Et il est hyper imposant. Hein. Pour le coup, il ressemble vraiment à un vrai joueur de Quidditch en vrai. Je me suis retrouvé à côté de lui en photo et je paraissais tout minuscule. Donc, effectivement, il ne correspond pas trop à la description qu'en fait J.K. ici.
Et d'ailleurs, au Québec, vous avez l'occasion d'avoir... la venue d'acteurs, actrices pour faire des dédicaces dans les magasins, dans les choses comme ça?
On a le Comic-Con, qui est comme un événement qui arrive une fois par année. Ben, je pense que ça se produit dans plusieurs villes dans le monde. L'an passé, il y a eu Matthew Lewis puis Bonnie Wright qui sont venus dans le Comic-Con. Donc évidemment, il faut payer pour une photo avec eux. Mais,
et tu as eu l'occasion de le faire?
Non, je suis pas allée parce que on peut s'en reparler une autre fois, mais moi, c'est deux personnages et acteurs qui me rejoignent moins dans les films, donc j'ai pas été jusqu'à dépenser pour une photo. En plus, c'était pendant, la pandémie était presque finie, mais il y avait une baie vitrée entre l'acteur et toi, si tu prenais une photo en plus. Une petite vitre là, glacée, donc peut-être pas idéal.
Ça peut être assez onéreux. Il y a dans le sud de la France qui va venir, c'est l'acteur qui joue Lucius Malfoy.
Jason Isaacs.
Voilà, qui vient. Et c'est très, très onéreux. Le package photo-autographe, c'est la dédicace de la baguette, c'est un gros budget. Quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un plexiglas.
C'est pas loin de 65-70 euros de budget. C'est... Ouais, c'est un peu dommage. Parce que du coup, ça restreint certains fans pour aller les voir. Quoi.
Mais il n'y a pas que la star Viktor Krum, évidemment, puisque c'est au tour des joueurs irlandais de faire leur entrée dans le stade. Et tous possèdent un éclair de feu, comme Harry. L'arbitre, lui, s'appelle Hassan Mostafa et il vient d'Égypte. D'ailleurs, l'arbitre libère les différentes balles du jeu et la partie commence. Alors, la première impression qu'a Harry, c'est qu'il n'avait jamais vu du Quidditch comme ça. Les joueurs, ils vont tellement vite qu'il a du mal à suivre l'action sans ses multiplettes au ralenti. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, les multiplettes, elles ont aussi l'intérêt de donner des explications, le nom de certaines techniques, comme l'attaque en faucon, ces trois poursuiveurs qui foncent côte à côte, ou la feinte de Porskov. C'est lorsqu'un poursuiveur monte en chandelle avec le soif et fait une passe en le laissant tomber. Voilà, la feinte de Porskov. Mais à cause du ralenti, Harry manque le premier but, comme lui fait remarquer Hermione, qui applaudit avec enthousiasme le premier buteur irlandais. Là, je me suis dit, Hermione, elle a quand même l'air d'apprécier vachement le match, alors que c'est connu qu'elle aime pas trop le Quidditch. Je me dis, je sais pas, est-ce qu'elle est prise dans l'ambiance ou peut-être qu'elle déteste pas tant le Quidditch que ça, je sais pas.
Après, c'est comme quand tu vas dans un bar et qu'un match de foot est passé sur l'écran géant. Là, t'as les supporters de l'autre équipe et tout, et t'es pris dans le jeu avec tes potes. Et moi, même, il m'est arrivé d'apprécier le foot dans cette ambiance-là.
Ah.
Ouais, absolument. Ouais. Puis, pour faire un parallèle avec Ginny, on sait que Ginny, elle va devenir joueuse professionnelle de Quidditch, puis on dirait que c'est quelque chose qu'on remarque juste pas dans les livres. Là, c'est sûr, elle va finir par jouer à Poudlard. Puis je sais que la romance, on le sait, que la romance Ginny-Harry commence plus tard, mais on dirait que j'aurais aimé ça, voir juste peut-être un court dialogue entre Ginny et Harry qui vient juste montrer déjà que Ginny vraiment tripe d'être là au match, connaît bien le Quidditch, alors que zéro présent. Elle est là dans la scène, mais je pense qu'elle a aucune réplique dans ce moment-là du chapitre. J'aurais peut-être ajouté ça. Ça serait venu déjà installer un peu le fait qu'elle est une amateur vraiment de ce sport-là. Contrairement à Hermione, oui, en effet, que je pense que c'est juste dans le feu du moment, là, est très, très enjouée par le match, évidemment, l'ambiance et tout.
Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, je suis
complètement d'accord parce que c'est quelque chose qu'ils ont en commun, Harry et Ginny. Et ça aurait été bien d'introduire à ce moment-là. Ouais, on n'a pas la réaction de Ginny alors qu'elle doit vivre un moment incroyable, en fait, elle aussi. Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Dans le livre, je suis pas spécialement fan de la relation Harry et Ginny, mais ça passe. Par contre, dans les films, c'est encore pire. Donc, c'est vrai que, enfin, c'est mon point de vue, mais je crois que t'as le même, Frédéric, parce que vous en parlez quelques fois dans le balado.
On en parle souvent, puis j'aime ça confirmer avec plusieurs invités différents qu'on a tous la même opinion, justement, de leur relation, évidemment, à l'écran, plus que dans les livres. Vous irez écouter mon épisode spécial Saint-Valentin, où, justement, on parle des couples.
Ouais.
Bref, je fais la comparaison claire, là, vraiment, avec leur romance dans les livres versus les films.
Bah, clairement... On parlait tout à l'heure des personnages qu'on imagine autrement ou non par rapport au film. Moi, Ginny, c'est un personnage qui est complètement différent dans mes lectures que dans les films. Après, je blâme pas Bonnie Wright, hein, mais je pense juste qu'elle correspond pas vraiment au personnage de Ginny des livres. Mm-hmm. Et je trouve que leur relation empathie en fait avec Harry dans les films, parce qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux, c'est terrible entre les deux acteurs, ça se voit, il se passe rien à l'écran. Mais par contre, c'est vrai que dans le livre, c'est pas parfait non plus, et je trouve que t'as raison, c'est il y avait peut-être quelque chose à jouer, même si c'est encore tôt, parce que Harry, ça va être le livre, la relation entre Harry et Cho, donc il va se passer des choses quand même avant que Harry et Ginny se découvrent d'un point de vue romantique, on va dire. Mais ça aurait été bien d'apporter un petit truc, quoi. À ce moment-là, je suis d'accord. Harry remet la vitesse normale et ne peut qu'admirer la prouesse des poursuiveurs irlandais, ce qui pousse les batteurs bulgares à redoubler d'intensité pour reprendre contrôle du match. Au premier but marqué par la Bulgarie, Arthur demande aux garçons de se boucher les oreilles lorsque les Vélans se mettent à danser. À la reprise du match, les deux attrapeurs Lynch et Crum foncent droit vers le sol, sans doute à la chasse du vif d'or. Crum se redresse à la dernière minute, mais la vitesse est fatale pour l'attrapeur irlandais. Il s'écrase au sol dans un bruit sourd avant que des médicommages descendent sur le terrain. Arthur explique qu'il s'est fait avoir car il s'agissait sûrement d'une feinte de la part de Crum. Et en effet, lorsque Harry revoit l'action ralentie à travers ses multiplettes, ces dernières affichent la technique de la feinte de Ronski. Et je crois qu'Hermione va appeler ça plus tard la feinte de Grosski, parce que ça m'a rappelé ça dans le livre. Et là, je vous propose un petit quiz, mais il va être compliqué, hein. Mais toutes ces non mais parce qu'en fait c'est tiré du livre de la bibliothèque de Poudlard qui s'appelle Le Quidditch à travers les âges. J.K. a écrit un livre voilà consacré au Quidditch sous la plume d'un personnage qui s'appelle Kenilworthy Whisp, et c'est un livre super où on apprend l'histoire du Quidditch, mais on apprend aussi la technique du Quidditch, les fautes, et notamment tout ce qui est technique, stratégie. Et là, on en a vu quelques-unes. On a vu l'attaque en faucon, la feinte de Proskov ou de Wonski, Mais est-ce que j'ai été voir dans le livre, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous vous rappelez ce qu'est le Starfish and Stick?
Oh,
ah bah j'ai dit compliqué, hein. Ah, on, je crois
c'est,
qu'on,
c'est
je,
même pas un QCM.
En plus, c'est pas traduit dans le livre. Non, mais si vous savez pas, on peut pas deviner. Par contre, le Starfish and Stick, je crois qu'on le voit un moment plus ou moins dans le film, mais dans le Prince de Sang Mêlé. Moi, bon, je l'explique.
C'est un rapport avec le Quidditch?
Ouais, c'est une technique de Quidditch.
Les joueurs doivent se positionner probablement d'une certaine manière, tous ensemble, je sais pas.
C'est juste un joueur et je peux vous dire, c'est le gardien. Ça peut être que le gardien. Le Starfish and Stick.
Tu t'en souviens?
Ben, on dirait, ça me fait penser à quand Ron fait ouais. Ça. Vous me voyez, là, vous, là? Mais quand il fait aller ses jambes et ses bras. Mais...
Je crois qu'on peut dire qu'il fait un Starfish and Stick parce qu'en gros, il faut que le gardien il mette son balai en position horizontale et qu'il s'accroche d'une main et d'un pied. C'est pas vraiment ce qu'il fait, je crois, mais il doit tendre l'autre bras et l'autre jambe pour attraper le souffle. Donc en gros, c'est un peu, on a l'impression qu'il tombe du balai.
Ah, l'étoile de mer et stick, ok.
Ouais, d'accord. Ouais, étoile de mer et stick.
Ok. Le bâton, oui.
Je trouvais ça marrant.
Bah bravo, Frédéric, parce que t'as quand même pratiquement deviné. Hein.
Sinon, il y a aussi le Doppelbitter Defense. Alors là, si on arrive à le traduire, c'est facile.
Défense des doubles batteurs, je sais pas.
Ouais, c'est ça. En gros, c'est quand deux batteurs frappent le cognard en même temps. Voilà. Mm-hmm. Et sinon, un dernier, le Parkin Spinster. Mais là, c'est lié à un Parkin, je crois que c'est un genre de Quidditch qui est cité dans Quidditch à travers les âges, donc la traduction peut pas aider. Le Parkin Spinster. Non.
Non.
C'est quand deux poursuiveurs. Alors, on a un petit peu ça dans le premier Harry Potter, dans l'école des sorciers, mais pas vraiment. C'est quand
les deux viennent.
Ouais.
Comme en sandwich, là, je dirais, là, sur le joueur adverse.
C'est ça.
Ils sont mis comme ils arrivent de chaque côté.
Mais c'est encore pire dans. Ouais, c'est ça, parce que dans le film, il y a deux joueurs de Serpentard qui prennent en sandwich une poursuiveuse Gryffondor.
Angelina,
et elle finit dans la tribune. Alors que là, c'est pas mettre le joueur adverse dans la tribune. En fait, il y a un troisième poursuiveur qui fonce dans le tas. Donc c'est encore un peu plus violent dans le Quidditch à travers les âges. Ça ressemble à une faute, mais non, c'est bien une technique qui est apparemment autorisée, le Parkin Spinster. Mais j'invite les auditeurs à parcourir ou à lire le Quidditch à travers les âges parce que c'est vraiment fun comme lecture. Moi, j'aime beaucoup ce petit livre, ça se lit bien. Alors, le poursuiveur irlandais Lynch se redresse bientôt sur son balai. Le match reprend et l'Irlande conforte petit à petit son avance, le score affichant désormais 130-10, ce qui crée des tensions chez l'équipe adverse. Lorsque le gardien bulgare commet une faute sur le poursuiveur Mullet, les farfadets se moquent des Vélanes en écrivant « ha 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 » dans le ciel. Malheureusement pour l'arbitre, les Vélanes ripostent en dansant et il finit par rouler ses muscles et lisser sa moustache devant les créatures et accessoirement devant le stade entier. Un médicomage est obligé d'aller lui donner un coup pour que l'arbitre reprenne enfin ses esprits. La scène est un petit peu ridicule, mais...
Et c'est fou que les Vélanes soient autorisées quand même lors d'un match de Quidditch de cette importance.
Ouais.
Parce qu'elle peut être vachement influée sur le comportement des joueurs et du coup de l'arbitre, comme on peut le voir ici.
Mais surtout que ça peut être hyper dangereux, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, Harry, il était prêt à faire le saut de l'ange, quoi. À sauter du... Donc, le monde de la magie n'est pas connu pour être un monde où... Très sécurisé, hein, de façon générale. L'arbitre ordonne aux Vélanes d'arrêter leur danse, ce qui rend les deux batteurs bulgares furieux, car les farfadets, eux, de leur côté, continuent de se moquer d'eux. Devant leur insistance, l'arbitre Mostafa siffle deux pénalties pour l'Irlande, ce qui n'arrange pas l'ambiance générale du match, qui bascule alors dans le grand n'importe quoi. Les attrapeurs bulgares ne frappent plus seulement les cognards, mais directement les joueurs. Les farfadets forment un doigt d'honneur, et les vélanes ripostent en jetant des flammes. Donc y a, rien ne va plus. Arthur Weasley fait le commentaire qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence, car en y regardant de plus près, les vilaines furieuses s'étaient maintenant transformées en créatures affreuses à tête d'oiseau. Ça, c'est une caractéristique des vilaines, c'est qu'en fait, leur véritable apparence est monstrueuse. Et justement, je trouve que ça fait un peu... en tout cas, c'est quelque chose, encore une fois, de très présent dans le folklore ou même dans les récits fantastiques de façon générale. Le fait que la beauté apparente cache la laideur ou la vieillesse, par exemple. Donc, dans les contes, les princes charmants, s'ils sont trop charmants, c'est que ça cache quelque chose. Et j'ai l'impression que chez les personnages féminins, c'est surtout la vieillesse, par exemple. Bon, là, c'est la monstruosité chez les Vélanes. Mais c'est souvent, on a ce mythe de la sorcière qui va cacher le fait qu'elle est vieille.
La sorcière rouge dans Game of Thrones.
Ouais, par exemple, la sorcière rouge, ouais. Mélisandre, je crois.
Ouais.
Qui, si elle enlève son collier, ça devient une vieille dame monstrueuse. On peut penser aussi à la mère Gothel dans le conte Réponse. Elle se sert de Réponse pour garder sa jeunesse et sans la chevelure de Réponse, elle redevient la vieille dame qu'elle ne veut pas être, alors que c'est ce qu'elle est. Enfin, voilà, c'est quelque chose de présent. Et puis je me suis dit, plus largement, dans Harry Potter, il y a le polynectar qui crée pas mal de problèmes. Tom Jedusor aussi. Tom Jedusor est présenté comme quelqu'un de très séduisant, alors qu'en fait, c'est
le sorcier. C'est un des pires mages noirs de l'histoire de la sorcellerie.
Ou à l'inverse, Hagrid, par exemple. Hagrid paraît très bourru, peut faire peur comme ça d'apparence, alors qu'il a le cœur sur la main.
Comme voilà. Croque-Dur.
Ouais, Croque-Dur aussi. Bah Hagrid oui. Et Croque-Dur.
Un gros chien impressionnant, et en fait, c'est un doudou.
Enfin, du coup, Arthur Weasley, je trouve qu'il a raison sur son commentaire, dire qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence. Et l'histoire va lui donner raison plusieurs fois. Les sorciers du ministère sont obligés d'intervenir pour séparer les mascottes, tandis que le match reprend de plus belle avec un soif qui va à 1000 à l'heure. Crumb finit par recevoir un cognard en pleine tête, mais l'arbitre ne peut pas réagir parce qu'une vélane a mis feu à son balai. Harry et Ron trouvent ça scandaleux que personne ne fasse rien pour Crumb parce qu'il semble ne plus être en état de jouer. Alors là, comme on l'a dit, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, il y a plus d'arbitre, il n'y a plus rien. Mais, et là, c'est une petite question quiz. Et encore une fois, c'est lié au Quidditch à travers les âges, mais c'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu pire que ce match-là, et il y a eu pire pendant la finale de la première Coupe du Monde qui a eu lieu en 1473. Est-ce que vous savez pourquoi, ou est-ce que vous pouvez deviner pourquoi ce match est peut-être le pire qui ait jamais eu lieu dans l'histoire du Quidditch?
Il y a eu des morts?
Il n'y a pas eu de morts, non. Pas à ma connaissance.
C'est pas le match qui a duré 3 mois?
Non. Je crois pas. À vérifier, mais je crois pas. Par contre, je pense qu'il a duré comme bien longtemps.
Il n'y a pas une histoire comme quoi un joueur s'était retrouvé dans un désert ou quelque chose comme ça?
Non, ça par contre, oui. Il y a ça dans le Quidditch à travers les âges, oui. Mais il y a un truc comme ça. Et c'est notamment pour ça, je crois qu'il y a un paragraphe qui explique pourquoi les joueurs, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur baguette magique. C'est parce qu'il y avait trop de dérives et les joueurs se jetaient des sortilèges. Mais non, c'est pas pour ça. Je vous le dis. C'est difficile à deviner quand même. En fait, il y a 700 fautes répertoriées par le département des jeux et sports magiques, et elles ont toutes été commises pendant ce match. Voilà. Chacune des 700 fautes. C'est pour ça que je disais, à mon avis, ça a quand même duré longtemps.
World Ride Record.
C'est ça. Et c'était la première finale, donc ça a donné la couleur. Le Quidditch, c'est toujours un peu n'importe quoi, et c'est comme très violent comme sport. Lynch, l'attrapeur irlandais, en profite pour se faire la malle à la poursuite du Vif d'Or. Malgré son nez cassé, Crumb fonce dans la même direction que lui et le rattrape. Et pour la seconde fois, Lynch s'écrase au sol après avoir foncé en piqué. Mais Crumb, lui, a non seulement pu se redresser, mais en plus de ça, il a réussi à récupérer le Vif d'Or. Le match est donc terminé, le score final étant de 170 à 160 en faveur de l'Irlande. Alors après un petit moment de flottement, les supporters irlandais explosent de joie dans le stade. Au commentaire, Ludo Verpé réalise à son tour ce qui vient de se passer. Crumb a attrapé le Vif d'Or, mais grâce à son avance, c'est bien l'équipe d'Irlande qui remporte la victoire. Alors Ron n'y comprend pas trop le geste de Crumb, mais Harry explique que Crumb, il a sans doute fait exprès parce qu'il savait que les poursuivants irlandais étaient trop forts. Là, je me suis dit, d'accord, mais c'est quand même dommage à 10 points près quand même.
Enfin, ouais, vraiment. Ça fait pas de sens. Ben, en même temps, l'explication d'Harry fait du sens, mais Harry le dit, là. il voulait que le match finisse à son avantage, voilà tout. Donc, ouais. C'était même pas pour l'équipe, là. C'était vraiment pour lui.
Je pense que c'est pas, plus égoïste que ça, ouais. Je pense que c'est surtout égoïste, pas vraiment pour l'équipe. Enfin, j'ai du mal à y croire, en tout cas.
Parce que sinon, il se serait planté. Il était trop tard pour se redresser, donc il n'avait pas le choix d'attraper le vif d'or, juste pour garder bonne figure, puis paraître encore un bon athlète. Je sais pas, mais ça fait pas de sens, c'est la Coupe du monde de Quidditch.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que...
Tu dois tout faire pour faire gagner ton équipe, surtout à 10 points, comme ça, de la victoire.
Ouais, il aurait fallu que la Bulgarie marque deux buts, et c'était bon, quoi. Et après, on attrape le vif d'or. Bon, c'est un peu bizarre. Là, je me suis dit... Il aurait peut-être fallu que l'équipe de la Bulgarie ait un Dumbledore avec eux pour qu'ils leur donnent le nombre de points suffisant pour gagner. Qu'il y ait un Dumbledore carré qui fasse. Cependant
Hey, Dumbledore, il est pas là. Il est où, Dumbledore?
Ah ouais,
c'est vrai.
Ou alors il est là et on n'en parle pas.
Il est là, mais il n'est jamais là.
Il aurait été dans la tribune officielle, clairement.
C'est vrai,
c'est une bonne question.
Bah, c'est vrai que je vois mal Dumbledore ne pas assister à la finale de Coupe du Monde de Quidditch qui se passe dans le pays. C'est une bonne réflexion.
Je n'avais jamais réalisé jusqu'à il y a 30 secondes que Dumbledore est pas là. C'est vrai que ça ne fait pas de sens.
Ouais, complètement. Peut-être que ça aurait été un peu bizarre, un peu cringe pour Harry et compagnie, qui est le directeur de Poudlard et que... Je sais pas, mais...
Ouais, enfin, t'as quand même le Premier ministre quand même dans la loge, donc...
Non, mais je veux dire... Enfin, ça aurait rien apporté peut-être à l'histoire, donc peut-être que J.K. elle s'est dit, bon, bah, il n'y a pas Dumbledore, et puis voilà. Je me dis peut-être ça.
Peut-être.
En tout cas, pour revenir à Crum, Hermione, elle voit du courage dans ce qu'il a fait, dans son geste, et il a l'air mal en point, en plus, Victor Crum, parce qu'il y a encore des médicomages qui s'occupent de lui. Là, je me suis dit, tiens, Hermione, peut-être qu'il y a un début de crush à ce moment-là, je sais pas. parce qu'elle a l'air quand même de, je sais pas, de le défendre. Le ministre bulgare dit que son équipe s'est malgré tout battue avec grand courage. Fudge est stupéfait de voir qu'il parle anglais. C'est à ce moment-là, Marina. Parce que bah, Fudge, il a galéré toute la journée à communiquer avec lui. Mais en fait, c'était une blague du ministre bulgare. Il s'est un peu moqué de Fudge pendant toute la journée. Et là, je me suis dit, ouais, c'est une blague, d'accord, mais ça reste deux ministres. Et je me suis demandé si c'était bien d'un point de vue diplomatique de faire ce genre de blague. Mais bon, c'est Fudge et moi, j'aime pas Fudge. Alors
je pense pas que dans la vie des Moldus, ça soit très bien perçu que...
Ouais, dans la vie réelle,
ce genre de blague, ça soit très bien perçu.
ouais. Mais bon, bien fait pour Fudge, on va dire.
Peut-être que c'était juste pour justement montrer que certains Bulgares ne sont pas aussi sérieux, puis qu'ils peuvent blaguer, puis...
Peut-être, ouais.
Se mettre une petite touche d'humour quelque part chez un Bulgare. Parce qu'on le sait que par la suite, dans le livre, t'sais, même Krum va rester toujours sérieux, Karkaroff, les autres élèves de Dunstrang ont tous leur allure très sérieuse. Donc là, on voit quand même que leur premier ministre, lui, est capable de, je sais pas, avoir cette approche-là un peu plus légère puis humoristique.
Moins rigide, ouais. Je vois ce que tu veux dire.
Peut-être.
En tout cas, je crois que Fudge, il dit quand même quelques... Pas atrocités, mais je crois qu'il a des mots un peu insultants, il me semble. C'est pas au début du chapitre où il dit...
Même sur les places, que c'est satané bulgare.
Ouais, c'est satané bulgare.
Quelque chose comme ça, quoi.
Ah, de toute façon, il pige rien, ce que je dis. Ouais. C'est un peu gênant pour lui à ce moment-là.
Tant mieux.
La tribune officielle où se trouve Harry s'illumine bientôt et la coupe est apportée à Fudge. L'équipe bulgare est d'abord félicitée, chaque joueur saluant les deux ministres de la magie l'un après l'autre. Crum a le visage démoli, il tient toujours le vif d'or à la main. Harry se fait la remarque qu'il paraît plus gauche une fois les pieds posés au sol. Puis les vainqueurs sont acclamés, l'attrapeur est emporté par deux de ses coéquipiers. Ludo Verpé finit par lever le sortilège sur sa voix. Lorsqu'il se retourne, Fred et George l'attendent la main tendue et un large sourire sur les lèvres. Il faut croire qu'ils ont en effet vu juste au moment de parier.
Merci Jérémy pour ce résumé de chapitre.
Merci Marina et merci Frédéric.
C'est très cool.
On va passer désormais à la rubrique « Quel est le meilleur personnage du chapitre selon nous ?» Frédéric, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a marqué dans ce chapitre?
J'en ai deux, là, puis je vais y aller avec mon premier. Je ne veux pas non plus m'avancer sur ce que vous allez peut-être vouloir dire à votre tour. Je vais prendre Victor Krum comme étant le personnage marquant du chapitre, évidemment, pour sa présence importante dans le match. Mm-hmm. Aussi la feinte qu'il va faire, que je sais que Harry va refaire plus tard, qui va être utile à Harry, bref. C'est ça. Juste sa présence dans le match, ce qui va amener à Harry, que Harry puisse l'observer comme ça en train de jouer. Ça m'a marqué. C'est comme le personnage important du chapitre. J'avais Winky en deuxième, mais je figure que peut-être vous l'avez également. Donc, pour des raisons évidentes, du fait que c'est la première fois qu'on voit un autre elfe de maison que Dobby, c'est sûr que c'est super marquant dans le récit, comme moment.
Et une des grandes oubliées des films, du coup.
Oui. C'est marquant aussi juste par le fait qu'on voit tout de suite qu'elle est très différente de Dobby par rapport à sa vision du rôle que doivent tenir les elfes de maison.
Oui, parce que en voyant Dobby, parce que mon personnage aussi c'est Winky, donc je te rejoins aussi sur la rubrique. Et en fait, vu qu'on a vu Dobby comme seul elfe de maison dans la saga pour le moment, on peut s'imaginer que tous les elfes de maison s'imaginent être libres en fait et voient vraiment leur mode de vie comme une contrainte, alors qu'avec Winky, on découvre que d'autres elfes de maison se soumettent totalement aux sorciers et aux sorcières et qu'ils n'en souffrent apparemment pas, entre guillemets, ce qui est très différent de Dobby.
Oui, Dobby, c'est un marginal.
C'est un marginal.
Alors que la grande majorité des elfes de maison sont comme Winky, en fait. On découvre quelque part
formatés au point qu'ils ne se posent même pas la question de « et si on était libre, est-ce qu'on apprécierait une vie de liberté ?»
Et je pense que ça va jouer un rôle aussi sur Hermione, parce que quand elle va apprendre qu'il y a des elfes de maison à Poudlard, je pense que elle va se rappeler aussi de Winky avec tout ce qui va se passer ensuite dans les chapitres, enfin dans le chapitre d'après, où elle va être accusée à tort, on va mal lui parler, elle ne sera pas respectée. Je pense que ça va être déterminant aussi pour Hermione de voir comment est traité Winky et pour se réaliser comment sont traités les elfes de maison en général. Ouais.
Et toi, Jérémy, ton personnage?
Alors moi, c'est... j'ai pas pris un truc sérieux. j'ai une pensée émue pour l'arbitre.
Je savais que t'allais dire l'arbitre. J'ai presque pris l'arbitre aussi. Je savais que t'allais prendre ça.
C'est le personnage le plus absurde. Vraiment, c'est n'importe quoi, cet arbitre. Enfin, la scène où il lisse sa moustache devant les Vélanes. Je sais pas si j'aurais eu envie de voir ça en film. Je sais pas. Puis il finit super mal, on lui brûle son balai.
En plus, on le visualise très bien, c'est très visuel.
Ouais, c'est très visuel, ouais. Pour moi, c'est... Puis souvent, ça me fait rire des personnages qui vont tout prendre un peu dans la figure. C'est un humour qui me fait rire, quoi. Donc voilà, petite pensée pour Hassan Mostafa, à jamais dans nos cœurs. On dirait qu'il est mort, mais non, il n'est pas mort. Mais on le revoit pas après, en tout cas.
Merci les amis pour cette rubrique et nous allons passer à la dernière rubrique de ce podcast qui s'appelle La Volière.
Et on commence avec un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Arnaud.
Salut la fréquence. Alors, je viens d'écouter le dernier chapitre de Harry Potter et la Chambre des Secrets, et il y avait un hibou sonore justement qui m'a interpellé, et donc du coup, je voulais vous poser la question. Donc, c'était par rapport à Rogue qui aurait présélectionné ses souvenirs dans les Reliques de la Mort pour les donner à Harry et pour lui donner un peu le film de sa vie entière, quoi, on va dire. Et justement, que pensez-vous qui se serait passé si Harry n'était justement pas arrivé à ce moment-là? qu'est-ce qui se serait passé? Rogue, il aurait... Enfin, Harry n'aurait jamais pu découvrir tout ce qu'il aurait dû découvrir pour pouvoir en finir avec Voldemort et tout ça, quoi. Donc, voilà, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez qu'il se serait passé vis-à-vis de ça. Et en tout cas, ben, continuez vos podcasts, je les adore. Et puis vous aussi, vous êtes géniaux.
Merci Arnaud, tu es génial aussi Arnaud, tu es génial de nous avoir envoyé cette question. Alors, qu'est-ce qui serait passé si Harry, il n'avait pas découvert le secret de Rogue? Alors, c'est toujours passionnant le genre de question parce qu'on peut refaire énormément l'histoire avec des « et si », mais c'est toujours trop marrant d'en parler. Moi, je dirais, et après je vous donnerai la parole parce qu'en fait, je vais ouvrir sur une autre question, mais les souvenirs de Rogue sont hyper importants, notamment pour la révélation à propos de Rogue même, c'est-à-dire que le fait que c'est un double espion, le fait qu'il aimait Lily, etc. Mais si Harry n'avait pas pu voir les souvenirs, il n'aurait pas su non plus qu'il était un Horcrux et qu'il devait se faire tuer par Voldemort, parce que c'est précisément ce que Dumbledore demande à Rogue de dire à Harry au dernier moment possible. C'est l'information capitale, c'est la mission de Rogue, en fait. C'est la révélation que Harry est un Horcrux et qu'il doit se sacrifier. Et du coup, la conséquence, en tout cas, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que Harry se serait finalement rendu à Voldemort s'il n'avait pas pu découvrir le secret de Rogue? Parce que c'est un peu cette révélation-là qui le pousse à se sacrifier dans la forêt interdite. Et donc, c'est un peu la question ouverte. Est-ce que Harry, à un moment donné, serait sacrifié? Est-ce qu'il aurait compris qu'il était un Horcrux? Je ne sais pas si vous avez des hypothèses.
Je pense que oui, mais ça, c'est dans le film, le dialogue, je sais pas exactement, je me rappelle plus dans le livre, ça fait quelques années que j'ai lu le septième tome. Harry, après avoir vu les souvenirs de Rogue, croise, encore une fois dans le film, Ron Hermione, il sans vraiment le dire, Hermione comprend, qui s'en va rejoindre Voldemort dans la forêt, puis il dit quelque chose du genre « ça fait un petit moment, je pense que je le savais et que tu le savais aussi
». Ouais.
Donc il s'en doutait, il a comme eu la confirmation, je pense qu'il serait allé de toute façon « for the sake » de sauver tous les gens qui sont dans la bataille, puis juste mettre un terme à ça. Je sais que Arnaud, dans son message, faisait référence à une autre question que vous avez reçue par rapport à la présélection des souvenirs de Rogue puis tout ça. Je pense que Rogue, peut-être vous l'avez mentionné, prévoyait pas nécessairement mourir ce soir-là. Lui, il voulait à tout prix voir Harry, je crois. Surtout quand il a convoqué tous les élèves dans la grande salle. Je pense que son plan c'était de peut-être juste l'amener dans son bureau, puis de tout lui révéler, puis peut-être à ce moment-là, hey, en plus de ça, tu pourrais regarder mes souvenirs. Puis finalement, bon, pour l'histoire aussi, là, ça Harry a fini au chevet de Rogue pendant ses derniers instants, puis là, les souvenirs lui ont été remis, mais c'est ça. Je pense que ça aurait quand même fini avec Harry qui se rend à Voldemort dans la forêt, peu importe souvenir de Rogue ou non.
Ouais, ouais.
Ouais, je suis d'accord aussi. Même s'il savait pas forcément... Dans la théorie où Harry n'aurait pas su qu'il était lui-même un Horcrux, je pense que le caractère d'Harry, le chemin de vie qu'il a fait depuis sa naissance, son entrée à Poudlard, son entrée dans le monde de la sorcellerie, aurait fait qu'il se serait sacrifié pour mettre un terme à cette guerre dans le monde des sorciers. Mais quoique... En le disant, non, ça fonctionne pas, parce que du coup, finalement, se sacrifier, mais pourquoi? Parce que s'il avait pas su que c'est un Horcrux, finalement, il serait mort, mais Voldemort aurait régné sur...
Non, pas forcément. En fait, ce qui est important, c'est que Harry doit se sacrifier et il faut que ce soit Voldemort qui le tue. En gros, c'est les conditions nécessaires pour qu'il y ait la possibilité que seul l'Horcrux meure, en fait, dans Harry. Mais Harry n'a pas forcément besoin de savoir qu'il est un Horcrux pour que ça fonctionne. Donc, si Harry se sacrifie, de base...
Oui, mais dans sa tête, il se serait dit « je me sacrifie, mais finalement, pourquoi ?» Parce que s'il ne savait pas que...
Pour la cause.
Mais pour la cause, ça n'aurait pas terminé le règne de Voldemort.
Parce que...
Ça n'aurait pas mis un terme au règne de Voldemort dans l'esprit d'Harry. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais peu importe, parce qu'il serait retrouvé dans les limbes, il aurait retrouvé Dumbledore dans les limbes, et Dumbledore, il aurait eu cette discussion avec Dumbledore, de toute façon. Donc, Je sais pas, on pourrait dire si Harry se sacrifie, je pense que finalement, ça aurait pas changé grand-chose le fait qu'il ait pas les souvenirs de Rogue. Par contre, ça aurait changé énormément sur ce qu'il pense de Rogue. Évidemment.
Oui, ça aurait changé sur sa réflexion aussi.
Un petit peu.
Il amène à se sacrifier. Ouais.
Juste avant de, je reviens à la scène où il quitte Ron et Hermione avant, il leur dit, il sait pas Harry tout en, il sait qu'il est un Horcrux, mais il sait même pas qu'il va survivre à ça.
Ouais,
il est comme j'ai pas le choix de me faire tuer parce que je suis un Horcrux, puis on va être plus près de l'éliminer lui, puis il dit à Ron et Hermione, occupez-vous du serpent parce qu'il reste juste ça, il reste moi puis le serpent. Puis après ça, vous pouvez tuer Voldemort, moi je vais être mort, bon, mais ça va être réglé. Donc
ça c'est un choix
Il y a juste confiance que Voldemort va quand même finir par être tué, juste pas par lui, mais il met sa confiance entre les mains de Ron et Hermione et de tous les autres qui sont au courant des Horcruxes pour qu'ils puissent en finir, eux, sans que Harry soit là nécessairement.
Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que si jamais, même s'il savait pas qu'il était un Horcrux, s'il avait juste cette théorie en tête parmi d'autres, ça aurait rien changé parce qu'il se serait sacrifié pour la même raison en fait. Hein. Donc, je sais pas si ça aurait fait une grande différence dans le film. Je crois que, enfin, c'est un peu une création du film. C'est pas dans les livres que Harry voit Ron et Hermione, je crois pas, parce qu'il se cache justement sous la cape d'invisibilité. Il veut parler à personne, il veut voir personne pour rejoindre la forêt interdite. Et c'est assez fort que dans le film, il croise Ron et Hermione. Mais ouais, non, mais je suis assez d'accord. En fait, il serait sacrifié à un moment donné. Peut-être pas maintenant, peut-être pas à ce moment-là, peut-être pas aussi vite, mais peut-être qu'il l'aurait fait à un moment donné.
Nous passons au hibou sonore de Jasmine.
Coucou Jérémy, coucou Marina, j'espère que tout va bien. Je m'interrogeais par rapport aux moyens de transport magiques. Dans un passage du tome 7, il est dit que Harry sent dans sa cicatrice Voldemort arriver chez les Malfoy. Il est dit que bientôt, il serait arrivé suffisamment près pour pouvoir transplaner jusqu'à eux. Du coup, cela voudrait dire que si on est trop éloigné, ce n'est pas possible. Et aussi dans le précédent chapitre, vous parliez de Charlie qui rate son examen et qui atterrit sur une femme qui faisait ses courses. Du coup, ça m'amène à cette question, comment peut-on être sûr qu'il n'y ait personne à l'endroit où on va transplaner ? Parce que ça ne doit pas être très agréable pour la personne sur qui on atterrit. Voilà, merci pour votre podcast que j'écoute toujours avec assiduité. Et je remercie aussi Marina qui m'a fait découvrir Agatha Raisin, que j'adore. Merci, de gros bisous.
Merci Jasmine pour ton hibou. Alors je suis trop contente d'avoir fait découvrir à quelqu'un la saga des Agatha Raisin. Frédéric, si tu connais pas, c'est un cozy mystery où il y a un peu moins de 30 livres en fait, et j'en avais parlé, oui, parce que dans les podcasts j'ai tendance un peu à raconter ma vie, donc là j'avais parlé de ma passion du moment pour les cozy mystery. J'ai fini la saga d'ailleurs. Enfin bref, voilà, je suis contente de t'avoir fait découvrir ça Jasmine. Sinon, pour le transplanage, j'ai pas trouvé de solution. Je sais pas si vous avez trouvé quelque chose, mais de solution pour ne pas atterrir sur quelqu'un. Je suppose, alors c'est des suppositions que je vais faire. Le transplanage, donc c'est un moyen de transport hyper dangereux, à tel point que le ministère de la Magie a mis en place un permis pour deux transplaner. Et le permis, on peut le passer quand on est à Poudlard. Et il y a un instructeur, Wilkie Tycross, qui vient à Poudlard pour faire passer le permis aux jeunes sorciers et sorcières qui le désirent. Et l'instructeur rappelle que la chose importante dont il faut se souvenir pour transplaner se résume aux 3D. Destination, détermination, décision. Dans ma tête, je me dis que peut-être il faut vraiment se déterminer et prendre la décision d'aller à une destination vraiment très précise, vide de personne, vraiment vide, pour éviter d'atterrir sur quelqu'un lors du transplanage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de solution pour savoir que l'endroit que l'on vise est vraiment vide de toute personne.
En effet, c'est ce que je me suis dit la même chose. On ne peut pas s'assurer qu'on ne va pas tomber sur quelqu'un.
C'est un risque à prendre.
C'est super dangereux, n'empêche.
Ouais, c'est dangereux. Ouais.
Est-ce qu'il faut vraiment que tu visualises, ok, je me visualise un lieu, mais tu visualises un emplacement vide, et donc du coup, il faut vraiment être déterminé à arriver à un endroit vide.
Je crois qu'il est dit dans le ministère de la Magie, il y a des zones de transplanage. Donc je pense sur des sur des lieux, on va dire, où il y a beaucoup de transplanage,
des
beaucoup
lieux
de trafic. Ouais, il y a des choses qui sont mises en place, je pense, pour éviter ce genre de choses. Mais après, si tu transplanes d'un point A à un point B, comme ça, un peu random, ça peut arriver, malheureusement. Mais je me suis aussi dit autre chose, parce qu'il y a le code du secret magique, mais ça veut dire que tu n'as pas le droit de transplaner n'importe où. Et pourtant, par exemple, quand Dumbledore il transplane avec Harry, j'ai l'impression qu'il transplane un peu n'importe où, que ce soit un village sorcier ou non, on s'en fiche un peu. Je me suis demandé ça aussi, est-ce qu'on peut transplaner partout?
Même Harry, au moment des reliques de la mort, il transplane n'importe où.
Après, ça va parce qu'ils sont en pleine nature, donc le risque de tomber sur quelqu'un est quand même assez faible. Mais ça aurait pu arriver. Par exemple, Hermione, elle transplane à Londres lors de l'attaque.
Circus, ben oui. Puis il y a comme des centaines de personnes. Downtown London, c'est rempli de gens.
Je crois, en plus, dans le film, ils arrivent même au milieu d'une route, ils évitent un bus, etc. Oui. Ouais, donc c'est risqué de transplaner, mais. Le monde de la magie est risqué, on le dit toujours.
Et on dit aussi que les moldus ne voient rien, de toute façon.
Oui, c'est ça.
Ils sont trop occupés, ils sont trop dans leur tête.
Oui, comme pour le Magicobus, ouais, exactement.
Ouais.
On passe à la prochaine question qui nous a été envoyée en audio par Jordan.
Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite interrogation là, ça trotte dans ma tête depuis un moment. Je n'en dors plus, alors s'il vous plaît, éclairez-moi, éclairez ma lanterne. Je vous explique la situation. C'est au sujet du tome 1, au tout début, quand Hagrid apporte le bébé Harry Potter au 4 Private Drive à bord de la moto volante. Il indique bien à Dumbledore que c'est le jeune Sirius Black qui lui a prêté la moto. Mais à ce moment-là, Sirius Black, il est soit déjà à Azkaban ou en cavale. S'il était en cavale, pourquoi il n'a pas demandé à Hagrid de prévenir Dumbledore quant à son innocence dans toute cette histoire? Je pense que Dumbledore l'aurait cru sur parole et il aurait pu aider à l'innocenter, non? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pigé? Est-ce que c'est une incohérence ou alors c'est juste tais-toi, il faut bien qu'il y ait une histoire? Voilà. Des bisous.
Merci Jordan. Alors tais-toi, il faut bien qu'il y ait une histoire. Il y en a beaucoup dans Harry Potter. Ça arrive souvent.
Tais-toi, c'est magique.
Tais-toi, ouais, c'est nous on appelle ça ta gueule, c'est le TGCM, ta gueule c'est magique. peut-être un petit point chronologique sur une partie de ta question, parce que Sirius, il est pas en cavale lorsqu'il rencontre Hagrid, parce qu'il va retrouver Pettigrew juste après avec tous les incidents que ça implique. Donc quand Hagrid et Sirius se retrouve à la maison des Potter. Non, Sirius n'est pas en cavale, il n'est pas à Azkaban, il est libre en fait. Par contre, c'est vrai, Sirius, il aurait pu dire à quelqu'un, par exemple Hagrid, qu'il n'était pas le gardien du secret, mais que c'était Peter. Il aurait pu dire la vérité. Après, pourquoi il ne le fait pas? Il n'y a pas de réponse, mais moi, je pense qu'il est effondré à ce moment-là. En fait, il a perdu ses amis, et sa soif de vengeance est plus forte que tout. Il veut retrouver Peter Pettigrew et il n'a pas la présence d'esprit de dire la vérité à Hagrid quand il le voit ou de le dire à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Sirius, il est en pleine détresse à ce moment-là. On peut peut-être l'expliquer comme ça, je ne sais pas.
Ouais, donc juste pour revenir à la chronologie, James et Lily se font tuer et là, Sirius, avant d'aller retrouver Pettigrew, comme tu as dit, va passer sa moto, s'assurer que Harry est envoyé en sécurité. Puis ensuite, il y a la scène où Pettigrew va tuer les moldus. Je m'étais mélangée. J'avais une toute autre réponse, mais finalement.
ouais.
Alors, venu confirmer la chronologie qui c'est ça.
Sirius, en fait, il est. Alors, on ne sait pas qui arrive en premier, mais disons que ce qu'on sait, c'est que Hagrid rencontre Sirius à la maison des Potter. Et en fait, ouais, c'est après. Alors, je sais pas si c'est quelques heures après ou le jour d'après ou plusieurs jours après, mais c'est après. Ça, c'est que Sirius se retrouve face à Peter Pettigrew. Par contre, ça ouvre une autre question. Et ça, c'est une question qu'on s'est déjà posée dans notre podcast. C'est qu'est-ce qu'a fait Hagrid avec le bébé Harry toute la journée? Parce que dans le film, on se pose peut-être pas la question, mais dans le livre d'ailleurs non plus. Mais en fait, Hagrid récupère le bébé Harry la nuit du meurtre de James et Lily, mais ce n'est que la nuit suivante que le bébé Harry est déposé devant la maison des Dursley. Mais qu'a fait Hagrid pendant 24 heures avec le bébé Harry? Mystère. On ne saura jamais. Oui, on avait déjà parlé de ça.
T'es sûr que c'est que 24 heures après?
Ah, c'est 24 heures après.
Comment on sait ça?
Surtout que c'est bizarre parce que ce soit dans le livre ou dans le film, ça donne l'impression que Hagrid revient directement des Potters parce
qu'il
dit...
Mais comment tu sais que c'est 24 heures après?
Bah, parce
moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était directement
ouais,
après.
Moi aussi.
Ah bah non, parce qu'il il s'est passé toute la journée, durant toute la journée, rappelez-vous, les sorciers célèbrent que Voldemort a été vaincu, les sorciers sortent dans la rue, parce qu'en fait, on vit toute la journée de Vernon Dursley, qui voit des sorciers, enfin, il sait pas que c'est des sorciers, mais des gens bizarres, parce que, en fait, la veille, Voldemort a été vaincu. Donc, en fait, James et Lily sont morts un jour J, et en fait, l'histoire commence le jour d'après. Et pourtant, dans le livre comme dans le film, Hagrid, ça donne l'impression qu'il vient d'aller chercher le bébé. Ça donne l'impression que James et Lily viennent d'être tués, alors que non, ça s'est passé il y a 24 heures, à peu près.
C'est vrai. Wow.
Et donc là, je me suis toujours dit, il y a une fanfiction à écrire, je ne sais pas si elle existe. Qu'a fait Hagrid avec le bébé Harry pendant 24 heures.
Il a vécu sa meilleure vie, lui a montré toutes ses créatures magiques et tout. Regarde bébé Harry, ça.
Ouais,
c'est vrai, c'est une bonne question.
Parce que ouais, est-ce que dans le... En fait, il dit, le petit s'est endormi quand on a survolé Bristol. Bristol, ça en plus, c'est cohérent, ça peut se trouver entre la maison des Potter et Londres, mais c'est pas cohérent parce qu'ils ont pas mis autant de temps à arriver, ça a pas de sens.
Après, donc, est-ce qu'il a pas voyagé un peu dans toute l'Angleterre pour, éviter d'être suivi, ou est-ce qu'il s'est pas caché pendant 24 heures
Moi, je vais vous dire ma théorie, je la trouve belle. Je pense qu'il l'a emmené dans sa cabane à Poudlard. Et je pense que Harry, en fait, il est déjà venu dans la cabane de Hagrid. Il est déjà venu à Poudlard. Et c'est quand il était bébé. J'aime bien penser ça.
J'aime cette théorie. J'allais juste donner une théorie plus réaliste, comme il s'est pris une chambre dans une auberge à Godric's Hollow, puis...
Ou peut-être.
Il a passé la nuit là. Mais ça, c'est vraiment nul, la théorie. J'aime mieux la tienne.
Bah,
il a pris une chambre dans un Ibis style.
Ibis budget. Ouais.
C'est moi.
C'est peut-être plus cohérent, mais j'aime penser, je sais pas que...
Oui, c'est vrai, ta théorie est plus belle.
Que Harry a découvert.
Aurait eu le temps d'aller jusqu'à Poudlard en moto puis de revenir? Ouais, peut-être.
Pourquoi pas?
C'est loin, Poudlard.
C'est loin, pourquoi pas?
Oui, oui.
Dans l'Ordre du Phénix, l'armée de Dumbledore se rend au ministère de la Magie, ils font bien Poudlard, Londres, en sombral, ça n'a pas l'air de durer énormément de temps. Sirius, il a une moto magique, ça colle. Hein.
C'est vrai.
Nous passons au dernier bout, écrit de Lou. Pourquoi avoir changé la coupe des trois sorciers en un porte-au-loin dans le tome 4? Je ne comprends pas pourquoi Barty a élaboré tout ce plan au lieu de transformer n'importe quel autre objet en porte-loin. Voilà, je vous remercie encore mille fois pour ce que vous faites. Merci Lou pour ton hibou. Alors en fait, au départ c'était le plan de Voldemort. Il avait prévu qu'Harry gagne la dernière épreuve dans le labyrinthe en éliminant tous ses adversaires. Donc, Harry aurait alors empoigné seul la coupe, il se serait retrouvé devant Voldemort, désorienté, et dans la tête de Voldemort, tout se serait bien passé. En fait, Harry, désorienté, aurait été facilement manipulable, il aurait eu le sang d'Harry, le jeune sorcier serait mort sous sa baguette, et comme ça, en empoignant à nouveau le porte-au-loin, il aurait pu faire son grand retour à Poudlard devant tout un public. C'est ce qu'il envisageait de faire en transformant la coupe en porte-loin, en fait. Et en un porte-loin spécial, puisque normalement, dans ma tête, le porte-loin, c'était seulement un aller. Et ce porte-loin, en fait, était prévu pour faire un aller-retour. Dont la théorie, c'est seulement une théorie, que Voldemort avait prévu de faire
théories
son grand retour
autour de ça, oui.
À Poudlard devant le public. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça.
C'est ça, c'est une théorie que son plan, c'était de reprendre le porte-loin et de retourner. Parce que j'ai déjà répondu à cette question-là dans mon balado. Je suis plus certaine si la réponse complète est prouvée des livres, mais en gros, ce que j'avais dit, c'est que pour tuer Harry puis revenir en forme humaine, Voldemort, c'est important de faire ça loin de Dumbledore. le seul homme dont il a peur. Donc, bon, c'est sûr que c'est un plan quand même élaboré de se rendre jusqu'à la fin de la troisième tâche pour réussir à amener Harry loin de Poudlard. Mais parce que c'était, il n'y avait pas le choix de l'amener loin de Poudlard. Impossible de mettre la main sur Harry pendant qu'il est à Poudlard. Et chez les Dursley, comme on sait, il y a une protection. Puis là, j'ai noté que la mort de Harry devait avoir l'air accidentelle. Donc, dans ce contexte-là, elle aurait pu avoir l'air accidentelle, comme Voldemort est peut-être pas prêt à faire son grand retour tout de suite. L'important, c'est d'avoir sa forme humaine, de le faire avec le sang d'Harry pour pouvoir toucher Harry puis s'en débarrasser, le tuer et après, bon, préparer son grand retour parce qu'on le voit dans l'Ordre du Phénix. Il fait pas son grand retour encore, il est pas prêt. Alors, j'ai l'impression que, je sais pas, c'était peut-être juste de se débarrasser d'Harry le plus vite possible puis préparer son retour en secret. Et peut-être pas, mais faire le grand retour grandiose avec la fanfare.
Mais du coup, pourquoi avoir prévu un retour au porte-loin?
J'imagine la scène. Et là, Voldemort qui se met à danser, là, petit freestyle.
Il fait des gestes, des mouvements avec sa cape. Alors, c'est pas du tout podcast ce que je fais avec les gestes.
De la capoeira. Non, mais je suis d'accord avec toi, Frédéric. La seule théorie qui me semble valable, c'est celle, effectivement, de faire passer la mort de Harry comme un accident du tournoi des trois sorciers, parce que je vois pas d'autre explication. Parce que sinon, il suffisait. Apparemment, on peut créer un porte au loin comme ça assez facilement.
Mais du coup, en fait, il aurait accroché le cadavre d'Harry au porte au loin pour que le porte au loin le ramène, mais que le cadavre d'Harry serait passé pour un accident.
Ou encore disparu, je...
Mais oui, mais toute la question, c'est le pourquoi...
Ah, le porte-loin.
Bah oui, c'est ça, en fait, qui pose question. C'est pourquoi le porte-loin est prévu pour un aller-retour.
Ouais.
Alors que normalement, porte-loin, c'est seulement un aller.
Peut-être pour faire revenir le cadavre de Harry, oui. C'était peut-être ça, le plan.
Excuse-moi, c'est parce que ça fait pas de sens non plus, le retour du porte-loin. Au début du livre, c'est pas à une heure précise qu'un porte-loin peut partir.
Bah oui, en plus...
Puis un retour semble pas être prévu, puis ça serait le même principe, le retour est prévu à une heure précise, bref.
Je pense qu'il y a plusieurs types de portes au loin, parce que effectivement, pour la Coupe du Monde, c'est très réglé, mais par exemple, on va le voir, alors je crois que c'est pas dans le film, mais dans l'Ordre du Phénix, on sait que Dumbledore, il peut créer des portes au loin, parce qu'il fait prendre, après la bataille au ministère de la magie, il fait prendre un porte au loin à Harry pour qu'il revienne dans son bureau, donc c'est un porte au loin qui crée comme ça au vol. Et d'ailleurs, c'est pas autorisé, c'est pour ça que Fudge, il dit « qu'est-ce que vous faites ?» Puis Dumbledore, en fait, il dit « non, mais c'est moi le patron, t'as pas compris. » Par contre, le fait que le porte-loin soit un aller-retour, c'est pas anodin. Par contre, ça c'est vrai que ça a souligné, c'est pas anodin, donc ça a été fait exprès. Pourquoi ? On peut avoir que des théories, mais après, même sur la mort accidentelle de Harry, je pense que c'est une théorie qui est valable, mais qui a ses limites, parce que ça aurait pu être dans l'intérêt de Voldemort de faire passer la mort de Harry pour un accident, mais pas sur le long terme quand même, parce que ce qu'il veut, c'est redevenir le mage noir craint de tous. Et quel meilleur moyen pour ça de tuer Harry, le survivant? Et d'ailleurs, on le voit bien dans les reliques de la mort, il veut être celui qui tue Harry et il veut que tout le monde le sache. Donc, vous voyez, faire passer la mort de Harry pour un accident, je mets pas pour longtemps. Donc, je sais pas, on peut avoir que des théories, mais...
C'est peut-être son intention. J'ai l'impression que rendu dans les reliques de la mort, il y a eu une évolution quand même de tout ce qu'il perçoit et ce qu'il pense de sa relation avec Harry, qui est peut-être pas la même chose au moment de la Coupe de Feu. Alors
c'est
que là, il y a juste une haine de vengeance. C'est de la faute de Harry, il faut que je l'élimine à tout prix. Peut-être qu'il pense même pas au fait que ça doit se savoir ou non du public étant, des sorciers, du monde des sorciers. Mais oui, c'est un sujet très intéressant.
Mais ma théorie préférée, ça reste la tienne, Frédéric. Voldemort voulait revenir pour faire de la capoeira avec la fanfare. Tadadadam, à Poudlard. J'aime beaucoup.
Ah, ce moment.
Ça fait penser au clip des fans de reprise de la chanson de Bruno Mars avec Voldemort.
Ah! Oui.
Oui.
Dark Lord, funk you up.
Voilà.
Dark Lord, funk you up. C'est ça. Et c'est terminé pour cette volière. Depuis le dernier épisode, on a fait le choix de réduire un peu cette rubrique. Donc désolé si vous nous avez envoyé un message et qu'on ne le diffuse pas. D'ailleurs, comme on a fait une longue pause récemment, on vous invite à nous renvoyer un vocal pour avoir un peu plus de chances d'être sélectionné. Ou autrement, vous pouvez aussi nous écrire votre question, car on lit quelques messages aussi à l'antenne maintenant. Vous pouvez nous envoyer tout ça en message privé sur nos réseaux sociaux ou bien par email à l'adresse fréquence934@gmail.com.
Et aussi, on est trop excités de vous dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez aussi nous écrire une vraie lettre avec du vrai papier. Et oui, 2023 baby. Vous pouvez même utiliser un parchemin, une plume si vous le souhaitez. L'adresse postale est en description comme tous les autres liens utiles. Et pour candidater et nous rejoindre peut-être pour une future émission, ça se passe sur notre serveur Discord où on enregistre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide, bien sûr.
Est-ce que le serveur Discord peut être un peu difficile si vous n'êtes pas habitué de ce réseau social?
Comme Poudlard, donc, ça paraît immense.
Un peu comme Poudlard, il y a des escaliers qui n'en font qu'à leur tête. Notre podcast est disponible sur la plupart des plateformes d'écoute et même sur YouTube. Merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires. On en a reçu plusieurs pendant notre pause et ça nous a fait vraiment plaisir. On avait envie de vous faire une dédicace, de vous citer. Donc, sur Apple Podcasts, merci à Jaster, Joey, MNFra, Curie, Tonnerre, Lex13, Lulu Dark, Le Pot de Fleur, Camille, Angèle, Noé, HP la vie, j'aime bien. Lucie, la sorcière gentille, Astrid Exav, Nicolo, Roro Potter, Scary Fluff, Brunissand, Alxad. Bref, ça en fait du monde. Merci. Là, c'était que Apple Podcast. Et on n'oublie pas Lilipus, Constance, Cynthia, Yin et Maud qui utilisent Podcast Addict et tous ceux qui commentent sur YouTube. Voilà, tout ça, ça aide à notre référencement. Donc, un gros cœur sur vous toutes et tous.
Au moment où cet épisode sort, normalement, notre nouvelle page Patreon devrait être ouverte. C'est un abonnement unique qui vous permet d'avoir accès aux épisodes une semaine avant leur sortie, mais aussi quelquefois à des after-shows, c'est-à-dire du contenu bonus qu'on enregistre après l'épisode. Et d'ailleurs, on va faire notre tout premier after-show avec Frédéric dans quelques instants, où on va parler du fandom québécois et des différences avec la France. Encore une fois, tout est dans la description si ça vous intéresse.
Notre page Tipeee, toujours d'actualité pour le moment. On continue bien sûr de citer tout le monde sur cette page. Merci à Corsetilou, Mugiwara, Lolax, Julien PD, Laure, Pamela, Lucie, Ini, Chloé, Poki Pims, Virginie, Yonde, Camille, Aritmoncien, Bispa89, Louison, Kimidoc, Aurélien, Cali et Mathilde. Avec l'arrivée du contenu exclusif sur Patreon, on a un peu changé de notre Tipeee. C'est une plateforme sans d'autres contreparties que les noms cités. Donc, si vous êtes tipeur et que vous souhaitez changer, faire la bascule, allez faire un petit tour sur la page Tipeee et Patreon. Tout est renseigné là-bas.
Il ne nous reste plus que pour conclure à remercier Frédéric. Merci beaucoup pour ta participation. Est-ce que l'enregistrement t'a plu? Est-ce que tu as passé un bon moment?
C'était vraiment plaisant. J'ai vraiment aimé ça. Réinvitez-moi quand vous voulez.
Trop cool. Ça va avec plaisir.
Pour vrai, je suis sérieuse. N'importe quand.
Trop bien, nous aussi on a pris du plaisir.
Bah ouais, on te réinvitera avec plaisir. Mais comme on l'a dit, c'est le cas pour tous les invités qu'on a déjà eu. On leur dit à chaque fois, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à refaire une demande et tout. C'est avec plaisir qu'on.
Et surtout, on en vient si on en vient à un chapitre que vous adorez.
Ouais.
Et Frédéric, s'il y a un chapitre que tu adorerais faire et tout, n'hésite pas à nous le dire. Et puis quand on arrivera à ce chapitre. Eh bien, tu viendras avec plaisir.
Le récit du prince, chapitre 32, tombe 7.
Eh bien, on se donne rendez-vous dans 5 ans et demi.
Ouais, c'est ça. Colin. Ouais, ça va être dans un petit bout.
En tout cas, merci Frédéric. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve soit pour l'after show, soit pour le prochain chapitre. Ce sera le chapitre 9 de la Coupe de Feu qui s'intitule La Marque des Ténèbres. À bientôt tout le monde.
À bientôt.